Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon. Mon Steam Deck marche plus. Pourquoi il marche plus? Pourquoi il marche plus? Il est plus connecté à... Faut que je répare mon Steam Deck. Bon, j'y penserai, hein, j'y penserai, j'y penserai, j'y penserai. Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue! Comment ça va bien? Comment ça roule en ce lundi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez bossé? Est-ce que vous avez vu la famille? C'est quoi les bails? Hop. Doum doum doum. Bon matin, je suis malade. Ah! Oh! Terrible. La maladie, c'est nul. Je connais, j'ai expérimenté, c'est tout pourri. Ça a poncé Flight Simulator, évidemment. Évidemment, évidemment. Week-end cousinade. Oh, trop bien. Les cousins. Moi aussi, j'ai vu des cousins éloignés ce week-end. Incroyable, les cousinades. Covid depuis une semaine. Ça existe encore, le Covid? Vous achetez encore? C'est nul. Pourquoi le chat, il est aussi gros? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Chatbox. Hein, c'est toujours aussi petit. C'est pas grave, ça fait plus de texte, hein. Il y a plus de vous et moins de moi. C'est mieux. Verstappen, champion du monde de Formule 1. Ah, bravo à lui. Il était favori, non? J'en sais rien, je suis pas, hein, je vais pas faire semblant. Remplir les bulletins des élèves. Quel bonheur. La pizza d'hier était bien calorique, alors je suis pas si gros. Est-ce que vous contractez? Est-ce que vous contractez le Covid? Est-ce que vous contractez le... Parce que moi je ne contracte pas. Mais visiblement, il y en a dans le chat qui contractent le Covid. Le week-end, c'est maintenant. Ah bah oui, c'est lundi, là, c'est les départs en week-end, hein. Faites gaffe à pas vous faire choper dans les bouchons, hein. Ce serait dommage. Nous sommes dans une république privée. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous sommes dans une république privée, je ne contracte pas avec la République. Il y a une énorme trend sur YouTube actuellement, c'est les arrestations d'automobilistes aux États-Unis qui sont filmées par les bodycams des policiers. Les automobilistes qui sont citoyens souverains. Vous vous souvenez des citoyens souverains français là, qui avaient fait le buzz? Je ne contracte pas. Bon bah en fait c'est un délire qui vient des États-Unis à la base. Et c'est un truc de complotisme, machin et tout. Et aux States, c'est une énorme trend en fait. Il y a plein d'Américains qui sont citoyens souverains. Donc quand ils sont arrêtés par un policier, ils lui disent je ne contracte pas avec l'État. Donc vous n'avez pas à me contrôler. Non, je n'ai pas de permis de conduire. Je n'ai pas besoin de permis de conduire parce que je ne suis pas en train de conduire mon véhicule, je suis en train de voyager. C'est pas la même chose. J'ai un droit au voyage qui est reconnu par la Constitution. Et vous n'avez pas le droit de m'arrêter ma voiture, sinon vous enfreignez mon droit de voyager. Et je ne suis pas en train de conduire un véhicule. T'as vraiment les flics. C'est que ceux-là qui regardent le mec qui est au volant de sa voiture, les mains sur le volant, ils font. Donc là, vous n'êtes pas en train de conduire. Non, non. Ah non, je ne conduis pas, non. D'accord. D'accord. et leur grand délire aussi, c'est je n'ai pas besoin de permis de conduire dès lors que je ne fais pas d'usage commercial de mon véhicule. C'est un lieu privé, ma voiture est un lieu privé, je suis en train de voyager avec mon lieu privé, j'ai pas besoin de permis de conduire pour ça, parce que je ne fais pas de commerce, je transporte pas de marchandises, etc. Évidemment, ce qui fait que la trend marche bien sur YouTube, c'est que vous devinez comment ça termine ce genre de conneries. Je veux dire, le mec qui essaye de outsmart un flic en lui disant t'inquiète, je connais mieux le droit que toi, je vais te donner un cours de droit, espèce de flic. De merde. Bon, bah, ils finissent sortis de la voiture, manu militari, les mains sur le capot, menottes, prison, quoi. Voilà, c'est ce que je vous dis. Tu sais, con, t'aurais pu finir avec une amende, mais. Et ils pètent la vitre aussi, hein. Les flics, ils pètent. Ah, bah oui, si vous baissez pas la vitre pour parler au policier, le policier, après vous avoir mis en garde plusieurs fois, il va vous péter votre vitre. Hein. Je vous le dis, en France aussi, c'est pareil. Hein. les mecs qui disent non, j'ai pas besoin de baisser ma vitre. Bon, bah du coup, on va casser la vitre pour pouvoir parler. Je crois que les flics, ils aiment pas ça, mais je suis pas sûr, je vais essayer. Ouais, essaye, essaye. Essaye. Il y a un gendarme qui t'arrête, essaye de lui donner un cours de droit. Je suis sûr qu'il va adorer. I know my rights. Ouais. I know my rights. 100% des gens qui disent je connais mes droits ne connaissent pas leurs droits. C'est un peu un classique. Les avocats, etc. Non, dites pas je connais mes droits si vous les connaissez. Parce qu'en fait, vous les connaissez pas. Vous savez pas quelles sont les règles en matière de contrôle routier. Enfin, non, vous n'avez pas fait la formation. En fait, vous les connaissez pas. Vous croyez les connaître, mais en fait, non, non. C'est pas. Ça marche pas. Et si tu dis je connais pas mes droits, ben là le flic il va te dire ah ben je vais vous les apprendre. Ne bougez pas, je vais vous donner un cours de droit à balles réelles, vous allez voir. Attendez, je suis encore un peu flou. Voilà, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Je suis droitologue. Ouais, je suis droitologue. Exactement. Donc non, c'est assez intéressant ce phénomène des citoyens souverains. Qui refusent de se prêter à des contrôles routiers. Tu as aussi un autre truc, c'est les carènes, évidemment, les carènes aux États-Unis. Donc des femmes blanches sûres de leurs droits et de leur supériorité hiérarchique dans la société, qui refusent de se plier aux contrôles routiers également. Il y a un reality check qui est très intéressant. Enfin, vraiment, c'est l'espèce de meuf qui prend de haut le flic. Alors d'ailleurs, conseil que je vous donne, tiens, au demeurant, je vous file un conseil. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Prenez pas les flics pour des cons quand ils vous contrôlent. Il y a zéro scénario dans lequel ça va vous être bénéfique. Genre vraiment zéro. Voilà. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous soumettre, machin. Vous pouvez avoir un dialogue normal, mais dire à un flic, tu es une merde, tu ne sais rien, moi je suis un businessman, je connais mes droits, ferme ta gueule, je t'obéis pas. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Surtout aux États-Unis. Ouais, alors surtout aux États-Unis. Alors tu me diras, en France, je suis pas sûr que les flics soient aussi très, très, très chill. Aux États-Unis, effectivement, un flic américain, voilà quoi, c'est un flic américain, qu'est-ce que je vous dise. Dans la hiérarchie de qui c'est qui a le pouvoir par rapport à toi, il est plutôt au-dessus, lui, ça c'est à peu près certain, ouais. Non, non, c'est un truc à finir menotté à plat ventre. Le risque de décès est plus grand aux États-Unis. Oui, ah oui, bah oui, parce qu'on oublie, mais en fait, les flics, enfin, les Américains, ils ont des flingues. Et du coup, les flics, ils ont peur des flingues. Un flic qui suspecte un automobiliste de posséder une arme à feu, il va directement sortir la sienne d'arme. Et là, le conducteur, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il fait. Les gestes brusques, c'est un truc à. Ouais, non, pareil. Donc ouais, non, les carènes, convaincus d'avoir raison sur le monde entier. Convaincus que leurs privilèges sont des droits, et puis la première fois de leur vie qu'elles rencontrent un flic, elles le prennent de haut et ça finit super mal. Et quel dommage quand même. Pourquoi ils les appellent les Karen d'ailleurs? D'où ça vient le nom Karen? Pour moi, Karen, c'est une trend sur TikTok ou sur Insta. En fait, c'est quand tu vois une. C'est souvent une femme blanche. Hein. Alors, pas toujours des blanches, mais c'est souvent une femme blanche, plutôt mûre d'ailleurs, d'âge mûr, je veux dire, qui font des scandales dans les magasins. C'est comme Régis. Ouais, c'est comme Régis, ouais. Ouais, c'est comme Régis, un espèce de nom comme ça, un peu générique qu'on donne pour désigner typiquement ce genre de femme, quoi. Faites venir le directeur. Voilà, c'est ça. I want to speak to the manager. Grand truc de Karen. Je veux parler au manager. Je veux pas parler au sous-fifre. Amenez-moi le manager. Et d'ailleurs, j'ai découvert, ils font pareil avec, enfin, elles, pardon, elles font pareil avec les flics. Les meufs, elles sont contrôlées par un flic et elles disent au flic, je veux parler à votre supérieur. Bah non. Si, 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 je veux pas parler à vous, je veux parler à votre supérieur. Faites venir votre supérieur. Le volume mic un peu faible. C'est possible que le micro soit un peu faible. Nous allons faire des réglages. Ne bougez pas. Laissez la police faire son travail. Ça dépend des moments. Micro, allez, on va se rajouter 5 décibels. Boum. Normalement, c'est mieux. Normalement, c'est plus mieux. Aux USA, tu peux demander à ce que le supérieur vienne sur les lieux du contrôle routier. Ah ouais ? Genre, c'est une règle ? En tant qu'automobiliste, si on te contrôle, tu as le droit de demander à voir le sergent ou le shérif ou le machin ? Peut-être, c'est possible, hein, c'est possible. Je connais pas très bien le code de la route américain. En France, en plus, je connais pas les grades, alors je veux voir votre adjudant. Non. Lieutenant, sergent, capitaine ? Beau. Quel est l'intérêt? La probabilité de chance que le sergent il arrive sur site et il dise à la dame, vous avez parfaitement raison madame, je vais gronder mon officier qui a mal appliqué le droit est proche de zéro. Il va jamais dire ça. Pourquoi vous m'avez fait venir? Il y a une bonne raison? Non? Bah, sortez du véhicule, mettez les mains derrière le dos. J'exige le général de Gaulle. Je veux voir Charles de Gaulle, tout de suite. Sinon, je ne donne pas mes papiers d'assurance. Mais s'ils n'ont pas contracté... Non, mais c'est ça, c'est ça la discussion. Si tu ne contractes pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... ça finit pas bien, ça finit pas bien. Faites pas ça. Faites pas ça. Payez votre amende. Non, vous ne payez pas votre amende. Vous gardez votre amende et vous la contestez avec l'aide d'un avocat. Voilà, vous faites ça. Si vous estimez que ça en vaut la peine, et je vous invite à faire des calculs, hein, mais admettons que vous estimez que ça en vaut la peine, vous allez voir un avocat, vous contestez l'amende, et devant un tribunal de police, vous pouvez effectivement avoir gain de cause. C'est possible. Ça existe les tribunaux de police. Alors je crois que ça a été remplacé. Le tribunal de police n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que ça existe toujours? Non, c'est ça. Attends. Il a été supprimé en 2005. Il a été réinstauré en 2017. D'accord. Je savais pas du tout. Je me disais bien qu'on l'avait supprimé à un moment, genre que c'est un truc du passé, que ça existait plus. Parce que moi j'avais fait mes études dans ces années-là. 2005, non j'étais encore au lycée mais dans les années suivantes j'étais étudiant en droit et je me souviens qu'on nous avait appris que le tribunal de police c'était l'ancien nom de je sais plus quoi et apparemment là je lis sur Wikipédia que depuis le 11 janvier 2017 il y a de nouveau le tribunal de police qui est le tribunal compétent pour juger des contraventions. Vous connaissez hein, contravention, délit, crime, ok. Je suis greffier de tribunal de police. Ah ouais, t'es greffier au tribunal de police ? Ah, c'est intéressant, ça. Le greffier, je le rappelle, c'est la personne qui, dans le tribunal, va s'occuper de... Comment dire ? Tenir à jour la procédure. Notamment prendre des notes, faire le compte-rendu, etc. Mais vérifier que tout le monde est bien présent, que les dates sont les bonnes, que... etc. Machin. C'est, voilà. Le greffier est un élément essentiel du fonctionnement de la justice. Ce n'est pas un magistrat, il n'est pas du tout là pour prendre des décisions, etc. Mais il joue un rôle essentiel. Hein. C'est un mec qui fait des greffes avec des organes et tout. Ouais, c'est ça, le greffier fait des greffes. Exactement. C'est le Scrum Master du tribunal. Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, on voit des pubs sur Twitter pour le cabinet de maître Éric de Caumont, avocat automobile, pour faire annuler des contraventions routières. Je demande si c'est pas borderline au niveau déontologie ce genre de pub. Je me souviens plus, et j'ai pas fait le barreau moi, hein, donc j'ai pas eu les cours de déontologie de l'avocat. Je crois qu'effectivement les publicités pour un cabinet d'avocat sont très contrôlées. Voilà. Et je ne saurais pas te dire. Par contre, oui, il y a des avocats spécialisés dans les délits routiers, ouais, enfin dans les contraventions et tout. Aux États-Unis, c'est vraiment le libéralisme, le capitalisme absolu. Aux États-Unis, les avocats font de la pub. Il y a des publicités pour des avocats sur le bord de la route. Et les avocats ont aussi le droit de démarcher directement. Donc tu vois des avocats, ça existe aux États-Unis, qui se mettent sur le parking de l'hôpital. Ils chopent les patients qui sortent de l'hôpital et ils lui disent est-ce que vous avez eu mal pendant votre opération? Si vous avez eu mal, je peux m'en occuper, je suis votre avocat, on va porter plainte, on va gagner beaucoup d'argent. Alors ça marche pas toujours, hein, mais là-bas, genre, c'est légal de, de démarcher les gens directement là devant la sortie de l'hôpital. Bonjour. Venez, on porte plainte contre l'hôpital qui vient de vous opérer. Voilà. Effectivement, Better Call Saul. Better Call Saul, c'est une série spin-off de Breaking Bad, c'est ça? Qui se focalise sur l'avocat de... Oui, c'est ça. J'ai pas vu Better Call Saul. J'ai pas vu. Les avocats gagnent toujours de l'argent même quand ils perdent. Ça dépend des pays, ça dépend de comment ça fonctionne, etc. Aux États-Unis, tu peux, je crois, avoir du pro bono total où l'avocat te dit, je ne gagnerai de l'argent que si on gagne des dommages et intérêts au procès. Je me paierai sur vos dommages et intérêts. On négocie un cut, hein, on se fait un 10%, 15%, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas quelles sont les pratiques, mais voilà. En France, c'est interdit, ça. En France, c'est interdit. L'avocat n'a pas le droit de faire commerce des dommages et intérêts, de gagner un cut, etc., sur les dommages et intérêts que tu as touchés. Les commis d'office sont payés comment? C'est pas l'équivalent de pro bono. Non, les commis d'office sont payés par l'État. Les commis d'office sont des avocats privés qui facturent à l'État, à la justice, leurs frais de justice. Tout ça est calculé évidemment selon des barèmes. C'est pas petit bonheur la chance évidemment. Mais les avocats commis d'office, le prévenu ne va rien payer parce qu'en général il n'a pas d'argent. Par contre l'avocat lui va bel et bien être rémunéré, mais c'est l'État qui va payer. C'est ça l'avocat commis d'office. Ils sont nuls ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Alors ça c'est une idée un peu reçue, l'idée que l'avocat commis d'office serait un mauvais avocat. C'est pas vrai du tout. Il y a des avocats qui sont des très bons professionnels spécialisés en droit pénal, etc., qui connaissent très très bien les procédures et tout, et qui sont commis d'office. Vous pouvez vous retrouver avec un avocat parfaitement capé, tout à fait capable. Je me permets même de vous suggérer, admettons qu'un jour vous vous retrouvez au commissariat. Pour une raison que j'ignore, je m'en fous. Vous voulez appeler votre avocat, etc. Bon, parfois l'avocat que vous connaissez, parce que les gens en général, ils ont un avocat de famille, par exemple. On connaît l'avocat, machin et tout, c'est un proche. Bah, peut-être que cet avocat-là, vous le connaissez, c'est un monsieur très gentil, mais en fait, c'est peut-être qu'il connaît rien en droit pénal, en fait. Parce que peut-être que lui, sa spécialité, c'est plutôt les successions, l'héritage, l'immobilier, tu vois. Lui, il n'a pas foutu les pieds dans un commissariat depuis 20 ans. Si tu veux, s'il débarque pour venir t'aider, je suis pas sûr qu'il puisse aussi bien t'aider qu'un avocat commis d'office, dont c'est un peu le boulot en fait. Donc l'avocat commis d'office, tous les jours, il est au commissariat. T'inquiète, il connaît les procédures, t'inquiète, lui, il sait faire. Donc non, non, faites pas l'erreur de croire que votre avocat de famille sera un meilleur avocat dans tous les sujets, dans tous les domaines, et pour vous sortir de la merde. Si vous êtes arrêté, placé en garde à vue, un truc comme ça. Qui a un avocat de famille? Bah, l'avocat de famille, en général, c'est le surnom qu'on donne à l'avocat de tes parents. Hein. C'est ça, un avocat de famille. C'est celui que tu connais un avocat, toi? Bah ouais, il y a Maître Machin, celui qui s'est occupé de la succession. Bon, bah ok. Voilà, c'est juste ça, un avocat de famille, tu vois. Si t'en connais un, toi? C'est l'avocat à qui on pose les questions pour savoir, etc. Ça ne veut pas dire qu'il a un contrat avec toute la famille, ça veut dire que c'est celui qu'on connaît, c'est tout. On a son numéro. Les parents n'ont pas forcément d'avocat. Ah non. Bah non. Non. Il faut avoir eu une raison dans sa vie d'avoir un avocat à un moment. Si t'as rien fait de mal, si t'as pas d'argent, il n'y a pas de raison que t'aies besoin d'un avocat. C'est plutôt le notaire en général qui s'occupe de la succession, enfin si la succession se passe mal. Oui, c'est ça, c'est si la succession se passe mal, en général, tu fais venir un avocat. Dis-moi, je suis pas d'accord, j'estime que j'ai le droit à ça. Là, si ça part au contentieux, t'as besoin d'un... Enfin, oui, c'est l'avocat qui va s'en occuper, en lien avec le notaire, évidemment. Dans les divorces, ouais, dans les divorces, c'est assez courant, ouais. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une volonté de faire une réforme sur les divorces. De manière à soulager la justice pour que les divorces d'un commun accord dans lesquels il n'y a pas d'enfants à charge, etc., puissent se régler simplement via un avocat, sans avoir besoin de passer devant un juge. Parce que les délais sont très longs. Ça existe déjà? D'accord, ça existe déjà. Alors du coup, ça c'est France Divorce. C'est entré en vigueur. Ok, d'accord. Donc c'est pas un truc en cours de réflexion, c'est déjà entré en vigueur. Une rupture conventionnelle de mariage. Oui, c'est littéralement ça. Donc là, dans certains cas, pour les mariages les plus simples, on va dire, il n'est plus besoin de passer devant un juge aux affaires familiales. Ça peut se faire directement avec un avocat. Terminé, merci, au revoir. Si par contre il y a contestation, etc., là, va falloir aller demander à un juge de trancher. T'es quand même obligé de casquer devant un avocat pour une signature. Ah bah ouais. Ouais. Ça, c'est le prix du mariage. Hein. La rupture du contrat doit se faire avec un avocat. Ouais, ça m'étonne pas. On sent les expérimentés du chat dans la rupture conventionnelle. Exactement. Non, fallait que je... Attendez, avant de parler politique, il faut que je vous raconte une anecdote marrante. Samedi, on était invité avec Salomé Sacquet aux 60 ans de l'Obs. Vous savez, l'hebdomadaire, le Nouvel Observateur qui s'appelle l'Obs. Ben, ils ont fêté leurs 60 ans. Et donc, ils ont organisé un week-end avec des tables rondes, des conférences, avec des trucs rigolos, avec des invités, des politiques, des machins et tout. Et ils nous ont fait l'amitié de nous inviter, Salomé et moi, pour parler de la politique et du désamour des Français avec la politique. Donc une table ronde avec Salomé et moi. Et l'événement avait lieu au Théâtre de la Concorde. Le Théâtre de la Concorde, vous savez, où on a déjà fait la nuit américaine, par exemple. Sur Backseat, on avait aussi fait Europarty sur la chaîne d'Arte pendant les européennes. Et donc voilà, donc on était au Théâtre de la Concorde avec Salomé. On a fait la conférence, c'était super intéressant. On a dédicacé des bouquins, c'était chouette. On a rencontré des gens et tout. Puis après, on s'est dit, vas-y, viens, on va boire un café. Parce que ça faisait 1000 ans qu'on s'était pas vu avec Salomé. On s'est dit, vas-y, on a plein de trucs à se raconter. Viens, on va boire un café. Et donc on se barre du Théâtre de la Concorde, on se rapproche de la place de la Concorde à Paris, et là devant nous trône l'hôtel Crillon. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Crillon, je pense que vous ne le connaissez pas l'hôtel Crillon, c'est normal. Les gens qui connaissent l'hôtel Crillon, c'est des gens qui ont au minimum 5 millions d'euros sur leur compte en banque courant. Voilà. L'hôtel Crillon est un immense hôtel de gigaluxe parisien. Similaire au Ritz, similaire, je sais pas, c'est quoi les autres, le Hilton, etc. machin. Et ils ont évidemment, c'est un palace, exactement, c'est un palace parisien. Et ils ont évidemment un restaurant de l'hôtel en bas, au rez-de-chaussée, etc. machin. Et du coup, je dis à Salomé, bah regarde, il y a l'hôtel Crillon qui est là. Elle m'a dit, ah, je connais pas, on y va? Et je lui dis, bah, non, non, Salomé, on va pas à l'hôtel Crillon. Enfin, c'est-à-dire qu'on est tous les deux habillés en jean, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais en fait, donc je commence à lui expliquer. Je lui dis, non, non, mais en fait, non, non, Salomé, c'est un palace, en fait, c'est un palace parisien, c'est comment te dire. Elle m'a dit, mais non, c'est trop marrant, viens, on y va. T'es sérieuse? Dit, ouais, carrément, vous connaissez Salomé, hein. Je dis, ok, Salomé, il n'y a pas de souci, on va à l'hôtel Crillon. Moi, évidemment, je m'attendais à ce qu'on se fasse recal d'entrée de jeu, évidemment. Enfin, je veux dire, c'était tête de pouilleux qui arrive en jean. On n'a même pas de Ferrari, même pas une petite Porsche 911 un peu classe. Et... Non, rien, on arrive à pied. Évidemment, devant l'hôtel Crillon, il y a deux Ferrari garés et je sais pas combien de berlines de Maybach et autres bagnoles de luxe. C'est l'hôtel Crillon, quoi. Donc, nous, on arrive avec nos sneakers et nos grands manteaux, là, et nos jeans. On arrive, on se démonte pas, hein. C'est-à-dire qu'on arrive devant les gars de l'accueil, là, ils sont quatre, hyper bien sapés et tout. Bonjour, on est deux pour prendre un café, s'il vous plaît. pour moi, l'anecdote allait s'arrêter là. Sauf qu'il y a un des quatre mecs qui fait tout à fait, venez, suivez-moi. Et là, on rentre dans l'hôtel Crillon. Je ne suis jamais rentré de ma vie dans l'hôtel Crillon, hein, genre vraiment. On rentre dans l'hôtel Crillon. Et je commence sérieusement à me dire. Mais je suis pas sûr d'avoir assez d'argent sur mon compte en banque là. C'est-à-dire, comment dire, c'est la fin du mois. Salomé, la blague, elle est drôle, mais il y a un moment, elle va arrêter d'être drôle en fait. Et donc, le mec nous conduit jusqu'à un maître d'hôtel, hyper bien sapé, etc. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour prendre un café si c'est possible. Et le mec nous dit, ah, je suis navré, c'est l'heure du thé. C'est l'heure du thé et toutes nos tables sont prises. Et je regarde derrière lui, effectivement, il y avait plein de monde. Alors, je sais pas qui sont ces gens, je sais pas machin. Je veux bien, en vrai, je veux bien le croire sur le fait que y a pas de table là. On arrive à l'heure du thé. Enfin, forcément, c'est l'heure du thé. Ah bon, d'accord. Et le premier mec qui nous avait amené jusqu'à ce maître d'hôtel lui demande et sinon à l'arrière, tu penses qu'il pourrait y avoir des places? Et il dit je ne sais pas, je vais vérifier. Et du coup, il nous invite à nous installer pour attendre. Donc, on se met dans une espèce de salle d'attente, hôtel Crillon. Donc, si tu veux, les canapés, la table basse, les œuvres d'art. Et donc, on se pose là, Salomé et moi, en attendant que le maître d'hôtel vienne nous dire si, y a des places, finalement. Bon, bah, du coup, on discute, hein, on blablate, etc. Et le maître d'hôtel revient. Et il nous dit, je suis absolument navré, il n'y a pas de place non plus. Je suis désolé. Et du coup, on lui dit, c'est pas grave. Je dis, vraiment, c'est pas grave du tout, vous inquiétez pas, on aura essayé. On se dirige vers la sortie. Et pendant qu'on se dirige vers la sortie, le maître d'hôtel, il dit à Salomé, j'aime beaucoup votre travail, madame. C'est pour ça qu'on a pu rentrer. C'est pas du tout parce que... C'est pas du tout parce que... On souriait, on disait bonjour, on voudrait. Voilà, non. C'est littéralement le mec, c'est un fan de Salomé Sacquet. Il l'a vu arriver, il a fait oh, si je peux réussir à faire rentrer Salomé Sacquet à l'hôtel Crillon. Bien sûr, madame, venez, je vous emmène. Et vraiment, le mec a essayé. Hein. Il a essayé de nous trouver une place et tout. Bon, visiblement, soit il n'y avait pas de place, soit il est allé négocier dans notre dos avec le supérieur du maître d'hôtel pour dire écoute, c'est une meuf super connue. Ce serait bien qu'on puisse quand même lui trouver une place, machin. Et le mec a arbitré en disant non. Ils sont en jean, je sais pas qui c'est le mec avec qui elle est. Ça dégage. Donc on s'est fait tège très poliment de l'hôtel Crillon, où on a quand même réussi à faire traîner nos baskets dans le petit salon d'attente grâce à Salomé. En vrai, je suis très content que l'anecdote s'arrête là. Parce que je sens que Salomé, elle planait un peu et que elle se rendait pas compte de vraiment combien va coûter le café. On a un tarif. Est-ce qu'on a la carte? Est-ce que la carte, elle existe? Genre sur les internets? Franchement, si vous trouvez, je suis preneur. Hein. Message épinglé. Ah! Ah oui, merci. L'hôtel Crillon, mesdames et messieurs. Non, c'est pas le bon écran. Attends. Mais pourquoi il n'y a rien qui marche aujourd'hui? C'est dingue, ça! C'est parce que j'ai mis Flight Simulator. Bougez pas, hein, bougez pas. Laissez la police faire son travail. Attends. Oh putain. Depuis le début, je suis sur mon setup Flight Simulator, c'est pour ça que rien ne marche. Excusez-moi. Voilà, j'ai pas changé mon setup, j'étais encore sur mon setup Flight Sim. Pardon, excusez-moi, toutes mes confuses. Putain, mais c'est pour ça. Le micro était pas le bon et tout. Bref, pardon. Alors, l'hôtel Crillon, mesdames et messieurs, comment vous dire? Voilà, on est sur. Je crois que c'était là, tiens, d'ailleurs, on était avec Salomé. On était assis là sur un canapé, je crois. Je reconnais les petites voitures, c'est les petites DS. Ça, c'est une Chaperon. Ça, c'est une DS21 ou DS19. Ouais, carrément, je reconnais. Est-ce qu'on a la carte carrière, carte cadeau, etc., médias, politique, hébergement, restauration? Mon Dieu, mais il y a plein de trucs. Butterfly pâtisserie. Non. Nono est comestible par Paul Perret. L'écrin, jardin d'hiver. Menu petit déjeuner, menu déjeuner, menu soir, tapas et dessert, menu tea time. Alors, les boissons. 72 euros par personne. €98 par personne, incluant une flûte de champagne, Philippona, Royal Reserve, brut ou cocktail. Donc ça, c'est le goûter des Lords. Oh, mais t'as la vache. C'est extraordinaire. Goûter des Lords, de 15h à 18h. Bah voilà, on est arrivé pendant le tea time. On n'a pas pu claquer 72 balles. Ça, c'est les champagnes, les cocktails sans alcool, les jus, les rafraîchissements. Tout ça est compris dans le prix. Comment dire? Voilà. Encore une fois, je suis content que la blague se soit arrêtée là. Ah, il y a le bar des ambassadeurs. On m'a envoyé le bar des ambassadeurs. De 17h à minuit, le croque truffe noire. Évidemment, le croque monsieur à la truffe. 34 balles. Mini cheeseburger. Oh, quelle vulgarité. Rolls de homard. S'il vous plaît, quand même, la moindre des choses. Croustillant de pleurotes et scailles aux herbes. Caviar d'aubergine fumée, rafraîchie, sésame, tuiles aux graines. Acra végétal de chimichurri au piment doux. Tartare de thon rouge de Méditerranée. C'est pas une espèce en voie de disparition. Le thon rouge de Méditerranée. Il n'y a pas de la surpêche. Pardon, excusez-moi, je fais ma Paloma Moritz, pardon. 2 minutes. Si, si, on est bien d'accord. Non, c'est fini. Si, si, de fou. La pêche est régulée. Ok, donc c'est pas interdit, mais c'est régulé. En gros, ils livrent que le crayon, quoi. Vous et moi, on ne peut pas manger du thon rouge. C'est uniquement les super riches qui ont le droit de manger du thon rouge. C'est ça la régulation, hein. On régule, hein. Thon rouge croustillant, mayonnaise, agrumes et piment doux. Caviar. Évidemment, caviar. 395 balles, les 125 grammes de caviar. Cocktail, 25 balles. Champagne, évidemment, blanc, rosé, rouge, moelleux, champagne. Oh putain, les champagnes, la carte des champagnes. C'est pas le genre de bar où tu dis, oh patron, t'as du champagne au frais? Ouais, il doit m'en rester une bouteille, ouais. Bah vas-y, fais péter. Non, c'est pas ce genre de bar-là. Là, c'est on te dit, quel champagne veux-tu? Parce qu'il y a du Krug and Clos du Mesnil à 3 800 balles. La bouteille. 3 800 balles. Ah non, mais ça continue en plus. Ah putain, au début, moi, ma blague, elle s'arrêtait sur la première page. Hein. En fait, ça continue sur la page d'après. Les grandes maisons de champagne. Suite. Oh. On continue, on continue, on continue. Les artisans de la champagne. C'est pas les mêmes. Putain, mais c'est pas possible. Et ça continue. Mais c'est un truc de ouf. Les bières, la débauche IPA. À 17 balles. C'est presque pas si cher que ça. Oh patron, tu mets une pinte d'IPA, s'il te plaît. Ah non, pardon, c'est 33 centilitres. Pardon, c'est de la bière bouteille. Pardon, pardon, pardon. On n'a pas la vulgarité d'avoir un bec verseur pour tirer de la bière pression. Non, mais attendez. Vous êtes cru au Vous êtes cru au PMU? Non, non, ici c'est que de la bière bouteille. Et la Heineken sans alcool, évidemment, à 17 balles. Parce qu'il faut quand même avoir une offre sans alcool. Heineken, pardon, je suis désolé, mais ça fait un peu supporter de foot. Hein. Moi, je viens pas dans un bar au crayon payer 3 800 balles ma bouteille de champagne pour qu'on serve de la Heineken. Spiritueux, tout ça, tout ça, tout ça. Vermouth and Bitters. Non, mais d'accord, mais moi je veux le café. Il a combien le café? Anisé, gin, vodka. Non, mais putain. Tequila, mezcal, cachaça, rhum, whisky. Tous les whisky possibles. Putain, c'est vraiment. Hey, la clientèle exigeante, hein. Armagnac, Pisco, Calvados, Eau-de-Vie, Grappa, Amari, Chartreuse, Grand Marnier, liqueur, rafraîchissement. You, mon Coca Zéro à 12 balles. Et il n'y a pas d'Ice Tea. Et il n'y a pas d'Ice Tea, je suis scandalisé. Boisson chaude, espresso 9 euros. Cappuccino 12 euros, thé vert, thé noir, infusion 12 euros. Bon, bah si on avait été dans ce bar-là, en vrai, ça va. Tu t'en sors avec une addition à 24 balles pour ton cappuccino. Mais franchement. Par contre, ça fait vraiment prolo. Hein. Excusez-moi. Est-ce que je vais vous demander un espresso, s'il vous plaît? J'ai pas d'argent. Plus 50% après 20h. Ah! Plus 50% après 20h. Il y a une majoration de 50% après 20h. Ça fait. Pardon, mais. Ça fait vraiment. Radin, je trouve. Pour un restaurant qui doit faire un bénéfice, mais astronomique, te lâcher un 50% de réduction. Attention, c'est plus cher après 20h. Eh, frère. Après 20h, est-ce que vous pouvez le monter dans ma chambre, mon expresso, s'il vous plaît? C'est la sad hour. C'est la sad hour. Donc voilà, donc la blague avec Salomé Saké s'est arrêtée là. Je suis très triste qu'on n'ait pas pu goûter à l'espresso à 9 euros. Mais on a quand même réussi à traîner nos guêtres dans l'hôtel Crillon. Et c'était moult rigolo. C'est comme les cafés parisiens qui servent que de l'alcool et plus de café après 20h. Oui, c'est parce qu'ils éteignent la machine à café et qui. Non, non, mais ça, je peux le comprendre. Non, mais attends, je peux le comprendre dans un bar parisien qui est un peu short staff et qui a envie un peu de rendre plus efficace sa carte en disant, les gars, je suis désolé, les cafés, on arrête parce que c'est trop relou pour aller chercher des tasses, des soucoupes, enfin, juste on fait plus de café après 20h. Ça, je peux le comprendre dans un bar parisien. Où tu sais qu'à la fin du mois, le bar parisien, ça dépend desquels, mais il peut se retrouver un peu ric-rac niveau chiffre d'affaires et bénéfices, tu vois, j'en sais rien. Mais l'hôtel Crillon, qu'est-ce que t'as besoin de me surtaxer après 20h? De toute façon, tout est hors de prix. De toute façon, enfin, je sais pas, tu marches comme un porc sur mon café, qu'est-ce que tu. Enfin bon. À ce moment-là, mets tout à 50, plus 50% toute la journée et garantis aux gens que de 24 heures sur 24, on va leur servir un café, quoi. Ça fait vraiment pince. Non mais voilà, ça fait vraiment pince. Je suis désolé. Hein. Je sais que l'hôtel Crillon, vous êtes un peu ric-rac, alors si vous voulez plus servir de café après 20h, je peux le comprendre. Vous êtes un peu short en plus niveau staff. J'ai vu, il y avait 4 maîtres d'hôtel qui attendaient devant la porte là. Ça doit charger à la fin du mois en salaire. Hein. T'as raison de dénoncer, Jean, il y en a marre. Ouais, ici c'est une chaîne qui dénonce, ok? On dénonce des choses importantes. Est-ce qu'ils acceptent les chefs restaurants? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Tout ça pour payer ses employés 1 600 balles par mois. Je suis pas certain que les employés dans les palaces soient les moins bien payés. Hein. Voilà, y a aussi des professionnels de l'hôtellerie de luxe qui ont quand même une spécificité, une capacité à travailler dans ces palaces-là, etc., qui sont très recherchés, Il y a beaucoup de monde qui veut bosser pour l'hôtel. Enfin voilà, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé que les salariés, etc. C'est bon, c'est le principe du luxe, hein, vous me direz. C'est de l'ultra exclusivité, c'est de l'ultra compétence, c'est des gens qui sont effectivement capables de te faire des cocktails avec des champagnes incroyables, machin et tout. Ok, très bien. Je veux dire, le barman, c'est un grand chef cocktail. Pas de souci, je reconnais. Ça peut, voilà. Je dis pas que je connais les fiches de paye du crayon. Je dis juste que ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi des professionnels un peu surcapés par rapport à ce que tu vas trouver dans les bars parisiens, où tu vas globalement trouver un étudiant en sociaux, tu vois. Je suis méchant. Je suis méchant avec les étudiants en sociaux. Vous faites des super cocktails. Et c'est très important, la sociologie. Le gars, il te sert pas un café, il te sert le café. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est quand même un professionnalisme. C'est quand même un professionnalisme particulier d'être capable de refouler poliment Salomé Sacquet et Jean Massier. Ils nous ont quand même, je trouve, avec beaucoup de compétences, fait croire qu'on allait effectivement boire un café à l'hôtel Crillon. Ils nous ont pas fait sentir pouilleux, genre on vous recale à la porte. Ils nous ont recalé plus tard à l'intérieur. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Bravo, bravo. C'est une excellence française. C'est entre 3 000 et 5 000 euros par mois un maître d'hôtel de palace. Oui, alors le maître d'hôtel, par définition, c'est le plus gradé. Donc oui, là tu vas chercher dans les. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça c'est. Mais le serveur, tu vois. Écoute, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Venez comme vous êtes, mais sortez vite. C'est sans compter les pourboires. Ah, les pourboires. Les pourboires dans les palaces. Excusez-moi, je n'ai pas de billet plus petit que 500 $. Vous prenez les dollars? Je suis navré, j'ai pas plus petit. Tenez. Tenez, mon brave. Merci pour ce café, comme vous dites. Excellent. Trêve de conneries. Trêve de conneries. Il faut qu'on parle un petit peu de l'actualité politique cette semaine, les copains. Non, parce que c'est quand même un stream sérieux ici. Enfin, c'est le service public et tout. On est là pour. On a quand même. Là aussi, on a quand même un niveau d'exigence en termes de qualité de stream. On est quand même sur un stream de luxe. Je vous rappelle, c'est un stream d'une excellence française, recherchée dans le monde entier. Un savoir-faire du commentaire et de la vulgarisation d'actualités politiques. C'est pas n'importe qui. Voilà, on a quand même un tarif social pour les clients, je vous le rappelle, de 5,99 $ par mois l'abonnement. Les clients sont fortement incités à s'abonner pour payer le maître d'hôtel. Et c'est majoré en sub après 18 h. Après 18 h, effectivement, c'est majoré, c'est réservé au sub. Donc bienvenue, installez-vous confortablement. Je voulais vous parler de la news importante, c'est que Marine Le Pen a été reçue par le chef du gouvernement Michel Barnier, s'est entretenu avec Marine Le Pen pour discutailler de la motion de censure, pour discuter du budget et de la motion de censure. Je vous rappelle que le budget n'a pas été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qu'il est actuellement en train d'être examiné par le Sénat, et que le texte du Sénat reviendra à l'Assemblée nationale pour examen. Examen au cours duquel, on s'en doute tous, il y aura un 49-3 qui va être utilisé par le gouvernement. Michel Barnier engagera donc sa responsabilité sur cette version du texte, sur une version qu'il aura le loisir de remanier s'il le souhaite, parce que je vous rappelle que le 49-3 vous permet de prendre les amendements que vous voulez dans le texte. Et le gouvernement sera donc devant les députés et engagera sa responsabilité. Tout le monde se pose la question de savoir si le Rassemblement national votera la motion de censure à l'issue de ce 49-3. Si vous demandez à des gens mal informés, un peu naïfs et fondamentalement tête à claque, comme par exemple le streamer Jean Massier, il vous expliquait il y a 2 semaines que non, Marine Le Pen ne votera pas la censure, parce que Marine Le Pen n'a aucun intérêt à voter la censure, elle préfère censurer le gouvernement de Michel Barnier au moment où c'est le plus utile, c'est-à-dire en juin prochain, puisque d'ici à juin prochain, je vous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de dissolution à l'issue d'une hypothétique censure. Donc voilà, bon, il y a des gros nazes comme ça sur Internet qui vous disent ces trucs-là, mais les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer puisque, semble-t-il, Marine Le Pen commence à faire entendre, faire savoir aux journalistes bien informés que le Rassemblement national pourrait bel et bien voter la censure. Sur fond de Michel Barnier nous maltraite. Michel Barnier n'écoute pas le RN, Michel Barnier méprise le RN, Michel Barnier ne prend pas nos amendements, nous ne sommes pas écoutés, c'est un scandale, c'était les lignes rouges qui avaient été fixées par Marine Le Pen l'été dernier pour le fait de ne pas censurer Michel Barnier. Et donc le RN menace, agite la menace de censurer le gouvernement de Michel Barnier. On va lire un article du Monde hein, qui parle de ça, mais je vous invite à quand même garder en tête un truc important. C'est que on est en phase de négo. Évidemment. Marine Le Pen et Michel Barnier sont dans un bras de fer, dans un rapport de force. Michel Barnier essaye d'obtenir le maximum contre Marine Le Pen. Marine Le Pen essaye d'obtenir le maximum contre Michel Barnier. C'est donc pas totalement étonnant qu'on ait des positions de bluff qui se fasse jour, puisqu'on est en phase de négo. C'est normal, c'est naturel, c'est habituel, c'est classique. Voilà. Gardez toujours ça en tête, quand vous entendez des politiques ou que vous voyez des articles dire « Ouh là là, il pourrait se passer ça », dans quelle phase on est, quels sont les acteurs en présence, qui a intérêt à quoi. Voilà, Marine Le Pen a intérêt à faire monter les enchères. C'est normal. C'est tout à fait normal. Non pas que je soutienne Marine Le Pen là-dedans, mais c'est que tous les politiques font ça. Faire monter la pression. On va lire un article du Monde qui récapépète un petit peu toutes ces histoires. Budget, Marine Le Pen estime que Michel Barnier reste campé sur ses positions, le Rassemblement national prêt à voter la censure du gouvernement. La chef de file des députés RN a dit avoir répété ses lignes rouges lundi à Michel Barnier. Je vous rappelle que les lignes rouges, c'était les fameuses conditions qu'avait fixées Marine Le Pen en septembre dernier pour ne pas censurer Michel Barnier, le fait de respecter les élus du RN, le fait de prendre certains de leurs amendements et le fait de ne pas augmenter les impôts des Français, il y avait ça aussi, et le fait de faire adopter une loi qui met en place la proportionnelle. Voilà, c'était ça les lignes rouges de Marine Le Pen. Ma position n'a pas évolué, pas plus semble-t-il que n'a évolué celle du Premier ministre, a-t-elle affirmé en sortant de Matignon. À l'issue d'un entretien avec Michel Barnier, lundi 25 novembre, Marine Le Pen a déclaré que le Premier ministre lui était apparu campé sur ses positions, confirmant l'intention du Rassemblement national de voter la censure du gouvernement si le budget restait en l'état. Ma position n'a pas évolué, pas plus semble-t-il que n'a évolué celle du Premier ministre, a-t-elle affirmé en sortant de Matignon. La chef de file des députés du RN, hop là, a répété ses lignes rouges au Premier ministre, qui lui est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Elle a jugé en particulier que l'augmentation des taxes sur l'électricité était inadmissible, tout comme la désindexation des retraites, même réduite de moitié. Elle a dénoncé le déremboursement des médicaments et a aussi réclamé des économies claires sur l'immigration, notamment sur le budget de l'aide médicale d'État, ainsi que le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État, c'est quand même suffisamment général. Grosso merdo, faut faire des économies. C'est marrant qu'elle parle pas des collectivités parce que le RN n'en a pas beaucoup des collectivités, elle pourrait taper dessus aussi. Mais comme elle vise les municipales en 2026, je vous rappelle que Marine Le Pen veut, je crois, 300 mairies. Hôte cette semaine des chefs de groupes parlementaires, le Premier ministre a ouvert ses consultations avec Madame Le Pen lundi matin à Matignon, avant une semaine chargée pour le gouvernement. Mardi, l'Assemblée nationale débattra et votera sur le traité de libre-échange avec le Mercosur, sur fond de colère des agriculteurs. Les ministres Annie Genevard et Sophie Primas porteront la parole du gouvernement. Et jeudi, un débat tendu s'annonce dans l'hémicycle, dans le cadre de la niche de la France insoumise, sur l'abrogation de la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne, adoptée en 2023. Mais c'est au plan budgétaire que les nuages s'amoncellent au-dessus de Matignon. La perspective d'un déclenchement de l'article 49.3 approchant à grands pas, comme l'explique le streamer Jean Massier, faute de majorité à l'Assemblée, où contrairement à Madame Borne, il a préféré laisser les débats se dérouler, Michel Barnier emploiera probablement dans les prochaines semaines cette arme constitutionnelle qui permet l'adoption d'un texte sans vote, sauf si une motion de censure venait renverser le gouvernement. Ce qui supposerait que le RN joigne ses voix à une motion déposée par la gauche. Effectivement, je le rappelle, la gauche ne veut pas voter les motions de censure déposées par le RN. En revanche, le RN a d'ores et déjà voté des motions de censure déposées par la gauche. Cette coalition des contraires, je sais que ce n'est pas ce que souhaitent les Français, qui souhaitent aujourd'hui la stabilité, la sérénité, a dit jeudi le Premier ministre. Comme Emmanuel Macron, qui, d'Argentine où il est en déplacement, a également dit souhaiter la stabilité. Mais selon un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche, 53% des Français souhaitent voir le gouvernement tomber. Et du côté de Michel Barnier, et la cote de Michel Barnier chute dans un autre sondage IFOP pour le journal du dimanche à 36% contre 45% lors de sa nomination au début septembre. Peut-être que Marine Le Pen, elle sent que le vent tourne, que les Français seraient plutôt preneurs d'une censure du gouvernement et que c'est peut-être le moment. Intéressant. Qu'advient-il en cas de budget et de gouvernement renversé ? Dans Le Parisien, la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon met en garde contre un scénario à la grecque, en évoquant le risque d'une crise financière. Il n'y a personne de responsable dans le pays qui puisse souhaiter que tombe un gouvernement qui a été nommé il y a 2 mois, abonde François Bayrou sur BFM TV. S'il y avait censure, il y aurait crise de régime, estime Agnès Evren, Les Républicains, sur France 3. Pareil que ce que je vous disais tout à l'heure sur Marine Le Pen. On est en phase de négo. C'est normal pour le camp Barnier de faire monter l'épouvantail. En disant attention, s'il y a censure du gouvernement, c'est la fin du monde, c'est une crise de régime, c'est un scénario à la grecque, on va tous mourir. C'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà. Madame Le Pen a minimisé les conséquences du rejet du budget lundi matin, refusant de céder à la petite musique consistant à dire « si jamais ce budget est refusé, s'il y a censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, etc. » C'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes, a-t-elle jugé. Alors oui, sauf que le budget de l'année dernière, il s'était pris dans un contexte de déficit à 3%, je crois. 3,5 ou 4%. Là, on est plus à 6. C'est un peu démago de la part de Marine Le Pen de dire ça. C'est, voilà, c'est au prix d'un déficit stratosphérique, effectivement, tu peux reconduire le budget l'année dernière. Il ne faut pas faire peur aux Français pour rien, avait aussi estimé le vice-président du RN, Sébastien Chenu, évoquant l'adoption d'une loi spéciale budgétaire en cas de censure. Le président de la République a plusieurs possibilités. Renommer le même Premier ministre, renommer un nouveau Premier ministre, démissionner s'il n'a pas d'autre solution, déclencher un référendum, a énuméré le député du Nord. Pour ce qui est de démissionner pour le président de la République ou de déclencher un référendum, ça ne résout pas le problème. Enfin, je veux dire, si une motion de censure est adoptée au début du mois de décembre, on a un grave problème, parce qu'on n'a plus de gouvernement et on n'a pas de budget, et qu'on a jusqu'au 31 décembre pour en trouver un. Donc il va falloir trouver des moyens de déclencher des crédits pour reconduire les dépenses de l'année dernière, etc. Ce qui, semble-t-il, peut être fait dans le cadre de la LOLF de 2001. Mais si le président de la République démissionne, il rajoute juste une élection au problème. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que Marine Le Pen va voter la censure du gouvernement de Michel Barnier ? Il y a un élément qui n'est pas cité dans cet article et qui, moi, m'est venu en tête aussi, sur ces histoires de machin, c'est le procès de Marine Le Pen. On commence à parler de plus en plus d'une inéligibilité de Marine Le Pen. Marine Le Pen peut avoir envie, compte tenu du fait qu'elle est portée par les sondages, et ça c'est vrai, c'est le premier parti de France et de loin, Marine Le Pen peut avoir envie de déclencher des élections le plus vite possible, de manière à montrer quelle est la plus forte, quelle est la première, quelle est la meilleure, et qu'il serait intolérable d'être jugé inéligible. Moi, ça me paraît être un élément important. Marine Le Pen est en mauvaise passe dans son procès. Ça se passe mal. Tous les articles qui parlent du procès expliquent le risque d'inéligibilité. Tout le monde explique les détournements qui ont été faits par le Rassemblement National au Parlement européen via les assistants parlementaires, etc. Marine Le Pen pourrait avoir envie de déclencher le chaos à l'Assemblée pour en tirer les marrons lors d'une prochaine dissolution. C'est un truc que je me suis dit. Et après, le chaos, c'est les autres. Non, mais voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est tout le paradoxe du truc. C'est que Marine Le Pen pourrait se rendre responsable du chaos, mais ses électeurs lui pardonneraient complètement en disant non, 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 c'est pas Marine Le Pen le problème. Le problème, c'est le gouvernement, c'est Michel Barnier, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen aurait tort de voter la censure. Aucun Français n'a envie de retourner aux urnes. Imaginez 2 secondes une élection du président de la République dans le contexte actuel. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'aucun Français n'a envie de retourner aux urnes, puisqu'on a plus de 50% des Français qui souhaitent la censure du gouvernement de Michel Barnier. Donc ça veut dire, a priori, qu'on change de gouvernement, quoi, d'une manière ou d'une autre. Imaginez 2 secondes ajouter une élection du président de la République dans un contexte actuel. En cas de démission d'Emmanuel Macron. Les nouvelles élections sont organisées dans les mois qui suivent, hein, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. Je vous rappelle que c'était déjà arrivé après la mort de Pompidou. C'est assez rapide, hein. Question posée 1000 fois, mais si Macron démissionne, est-ce qu'il peut se représenter? Non. Le budget ne sera pas voté, donc crise nationale. En fait, il faut bien comprendre les échelles de la crise. Il y aurait une crise institutionnelle. C'est-à-dire on retournerait à la situation qu'on a connue en l'été dernier, rappelez-vous, où on savait pas qui serait le Premier ministre, et c'était le bordel, etc. Machin. On retournerait dans cette situation-là. Tu ajoutes à ça le fait que le budget ne serait pas voté, donc on reconduirait bon an mal an les crédits de l'année dernière, ce qui rajouterait potentiellement une crise financière, puisque les prêteurs qui prêtent de l'argent à la France pourraient perdre confiance dans la capacité de la France à rembourser sa dette. Augmentation des taux d'intérêt. Donc creusement des déficits. C'est ça le scénario à la grecque. Alors, évidemment, la France n'est pas la Grèce. Donc, je ne pense pas qu'on tombera aussi bas qu'était tombée la Grèce. Mais on peut se retrouver dans une situation où les 6% de déficit de cette année-là, c'est une bagatelle à côté de ce qui nous attend. Et là, que tu sois un gouvernement de droite, de gauche ou de diagonale, tu vas être obligé de prendre des décisions drastiques pour trouver des ressources le plus rapidement possible, quoi. Donc crise institutionnelle, crise financière, potentielle crise économique aussi. Alors ça faut voir si effectivement les investissements arrêtent. Les investisseurs disent mais en fait la France on n'a plus confiance, on arrête d'investir, etc. Chômage, augmentation des dépenses de la Sécu. On va continuer dans ta fiction. Imaginons que tu aies raison et que la France voit son président démissionner. À quoi ça va avancer les choses? Vu qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée, le président aura le même problème que Macron. Absolument! Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que la démission de Macron n'était pas en soi une solution. Et l'élection d'un autre président, quel qu'il soit, ne sera pas une solution. Parce que le nouveau président, exactement comme tu dis, va se retrouver à prendre le pouvoir. Eh ben c'est con, l'Assemblée c'est toujours la même, elle n'a pas changé, et tu peux pas la dissoudre avant juin prochain. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Après, on peut tempo. Mettons que Emmanuel Macron démissionne en janvier, on fait des élections fin mars, le nouveau président prend le pouvoir mi-avril, fin avril, mettons, ça fait qu'il a, il a 30 jours avant de pouvoir dissoudre. C'est bon, hein, 30 jours, on reconduit un gouvernement technique et puis on attend quoi. On peut pas mettre un gouvernement NFP aligné avec le vote des Français. Les Français n'ont pas voté NFP aux législatives majoritairement, hein. Ils ont même voté contre le NFP majoritairement. Avec 200 députés, le NFP n'est pas en mesure de diriger aujourd'hui. Il pourrait l'être si d'aventure Marine Le Pen renverse le gouvernement de Michel Barnier et que ça provoque des réflexions comme l'été dernier et qu'on se rend compte que l'alliance branlante entre les macronistes et LR n'a pas fonctionné et que maintenant, c'est peut-être effectivement le moment de nommer quelqu'un proche du nouveau Front populaire qui soit de nature à trouver un accord avec les macronistes. Le problème du NFP, c'est qu'il n'a pas d'alliés. C'est le même problème qu'à l'ERN, d'ailleurs, il n'a pas d'alliés. Et c'est un peu aussi le problème de Michel Barnier, quoi. Bah, il avait une alliée, c'était Marine Le Pen. C'était pas vraiment une alliée, c'était juste quelqu'un qui acceptait de pas le censurer. Mais là, si elle change d'avis dans les 15 jours... C'est déjà une alliance, le NFP. Oui, bien sûr, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, il en faut d'autres. Ils n'ont pas voté NFP en majorité, ça veut dire quoi? Il y a eu un barrage anti-NFP. Il n'y a pas nécessairement eu de barrage anti-NFP, mais si tu regardes la composition de l'Assemblée nationale, tu as 200 députés de gauche et 350 de droite. C'est tout. Droite et extrême droite, évidemment. Il manque au NFP une centaine de votes. Il manque au NFP une centaine de votes. Ou à minima, une abstention de voter la censure. Donc, de la même manière que l'assurance vie de Michel Barnier, c'est Marine Le Pen, l'assurance vie de Lucie Castet, c'est Emmanuel Macron ou Gabriel Attal. Donc, il va falloir que le NFP négocie avec les macronistes, en demandant aux macronistes quelles sont les conditions, c'est les mêmes lignes rouges que Marine Le Pen, quelles sont vos lignes rouges pour ne pas censurer le gouvernement de Lucie Castet. Ou de n'importe qui d'autre que Lucie Castet, c'est pas le sujet. Bon, bah du coup, les macronistes, ils vont dire, on veut pas qu'il y ait de ministre de la France insoumise dans votre gouvernement, sinon on censure. On veut pas que vous augmentiez les impôts. Et on veut pas que vous dépassiez le déficit. Et évidemment, la réforme des retraites, vous l'abrogez pas. Impasse. Pas forcément impasse. Pas forcément impasse parce que ça se négocie. Ce que je viens de vous dire, c'est des lignes rouges. Mais lignes rouges, ça se négocie. Regardez ce qu'est en train de faire Michel Barnier avec Marine Le Pen. Tu négocies tes lignes rouges. Lucie Castet. Donc quand Gabriel Attal lui aura dit ça, Lucie Castet va lui répondre très bien. J'ai entendu. Vous dites qu'on doit respecter le déficit. Très bien, on doit respecter quel déficit exactement? Parce que quand vous étiez Premier ministre, monsieur Attal, vous aviez fait 6% de déficit. Donc, je vais pouvoir faire le même que vous, on est d'accord. On deal là-dessus. Vous voulez pas qu'on augmente les impôts? Très bien, on n'augmente pas les impôts sur les Français, notamment sur les Français qui travaillent, notamment sur les foyers, les familles. Ok, très bien, les petites entreprises. Ok, on n'augmente pas les impôts sur les petites entreprises. Et si on recrée un ISF, par contre? Si on fait contribuer les milliardaires, les millionnaires, etc., vous allez faire quoi? Vous allez nous censurer là-dessus? Si j'engage le 49-3 sur la création d'un ISF, vous faites quoi, monsieur Attal? Vous oserez censurer un gouvernement qui a voulu faire participer les plus riches? Alors que la majorité des Français est pour? Pareil pour les grandes entreprises. C'est vous, monsieur Attal, qui avez créé vous-même une imposition exceptionnelle sur les bénéfices des énergéticiens. C'est pas nous, c'est vous. On ne pouvait pas nous empêcher de faire la même chose sur d'autres entreprises. Ce serait étonnant. Et vous dites que vous ne voulez pas d'insoumis dans le gouvernement? D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été purgés par la France insoumise alors? Ils ne sont plus insoumis. On peut les mettre dans le gouvernement. Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, Clémentine Autain. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça se négocie, tout ça se négocie. On verra si c'est le cas, on verra si... Évidemment, là, il y a des conditions dans les conditions, hein. Est-ce que Marine Le Pen va censurer le gouvernement en cas de 49-3? Alors déjà, est-ce que le gouvernement va faire le 49-3 sur la deuxième lecture à l'Assemblée? Bon, la réponse est a priori oui. Est-ce que Marine Le Pen va voter la censure? Admettons. Admettons qu'Emmanuel Macron ne démissionne pas. Il nomme Lucie Castet. Enfin, il nomme pas Lucie Castet. Il invite Lucie Castet à composer un gouvernement. Donc, il file à Lucie Castet le bébé, en disant, bah, maintenant, c'est ton problème, ma grande. Tu dois trouver, à défaut d'une majorité, au minimum, tu dois négocier l'abstention de voter la censure. J'ai la chef. On verra le résultat à l'Assemblée, parce que c'est à l'Assemblée que ça va se jouer, hein, c'est pas dans le bureau du président de la République. Sachant qu'en ce moment, le NFP, c'est pas la folie. Ah ouais, non, en ce moment, c'est compliqué. Mais hey, c'était pareil la NUPES, hein. Puis c'était pareil la gauche plurielle, hein. Puis c'était pareil l'Union de la gauche, hein. Hey, dis donc, ça ferait pas un siècle et demi que c'est compliqué à gauche, entre nous? On n'est pas dans ce cas de figure, et la FIP est un plomb, non? Non, LFI pète pas un plomb. LFI, ils jouent leur partition. Ils entretiennent leur rapport de force. Bon, ils ont décidé d'entretenir leur rapport de force avec les socialistes. C'est leur choix. Mais non, 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 y a pas vraiment de difficulté de ce point de vue-là. Hein. On devrait renommer la gauche compliquée. Par contre, la réalité économique va prendre de court cette vision, puisque début d'année prochaine, beaucoup de grandes entreprises vont annoncer des déficits massifs suite à la dégradation économique qui explique 80% du déficit pas prévu. Ouais, c'est exactement le scénario de crise financière dont je te parlais tout à l'heure. On avait déjà connu un scénario à peu près similaire au moment de la grande crise de 2008. Évidemment, alors c'était une crise qui a secoué le monde entier et qui a touché les dettes souveraines dans le monde entier. La France a eu chaud. La Grèce, l'Italie, le Portugal en ont bavé sa mère. La France a eu chaud, mais ça a coûté, je vous rappelle, à François Fillon, le fait d'augmenter les impôts, de faire la RGPP, de réduire considérablement les dépenses de l'État, etc. Enfin, ça a été violent socialement. Hein. Mais oui, effectivement, le spectre d'une crise financière. N'avons-nous pas atteint les limites de la Ve République? Si, enfin, ça fait depuis 1962 qu'on a atteint les limites de la Ve République. Donc, oui. De l'article 11. Oui, 62, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le coup d'État permanent dénoncé par François Mitterrand. Puisqu'on était en train de parler de la France insoumise, il y a un article du Monde qui récapitule les discussions qui ont lieu actuellement dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise qui aura lieu jeudi prochain. Alors je vous rappelle, je vous réexplique très rapidement. À l'Assemblée nationale, un des trucs les plus stratégiques, c'est l'agenda. À quelle date est-ce qu'on débat de quel texte? À quel moment est-ce qu'on a le temps de débattre de quoi? L'agenda de l'Assemblée nationale, il est extrêmement contraint. Il y a beaucoup de projets de loi du gouvernement, beaucoup de propositions de loi des députés. On est obligé de faire des choix et d'organiser les choses. Pour permettre aux groupes minoritaires de l'Assemblée de défendre des propositions de loi, on a inventé un truc qui s'appelle les niches parlementaires. Une niche parlementaire, c'est tout simple, c'est une date dans l'agenda au cours de laquelle on est d'accord pour dire que ce jour-là, c'est tel groupe qui a la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Ça dure qu'une journée, de 8h à minuit. Et après, c'est terminé, ce sera l'année prochaine, la prochaine niche pour le groupe. Donc, dans l'agenda de l'Assemblée, vous avez chaque mois, comme ça, une niche différente, d'un groupe différent. Et c'est le moment où le groupe en question peut défendre des propositions de loi. Ça dure qu'une journée, donc c'est dur de défendre beaucoup de propositions de loi, mais ça permet d'avancer ses arguments, ça permet de forcer les autres à se positionner sur ses propositions, et ça permet aussi de forcer le débat sur des amendements. Donc c'est plutôt utile une niche parlementaire pour un groupe. Rappelez-vous, le Rassemblement national, c'était il y a un mois, avait déposé une loi d'abrogation de la réforme des retraites. Et là, ce jeudi, arrive la niche parlementaire du Rassemblement national. Il y a des niches pour les députés sans parti? Non, les députés non inscrits, ils n'ont pas. J'ai dit quoi? Non, de LFI, de LFI, de LFI. Pardon, pardon. Jeudi prochain, c'est la niche parlementaire de la France insoumise. Le RN, c'était le mois dernier. Et donc, on va regarder un article, toujours du journal Le Monde, qui analyse un petit peu la situation, puisque ça a fait grincer des dents les propositions des insoumis. La France insoumise sous le feu des critiques pour avoir proposé d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. La proposition de loi déposée par le parti de gauche veut supprimer ce délit créé par une loi de 2014. LFI estime que la loi du 29 juillet 1881, qui traite des faits relevant des délits d'apologie de crimes, d'apologie de crimes de guerre, d'apologie de crimes contre l'humanité, suffit en la matière. La loi du 29 juillet 1881, c'est une loi très importante, c'est la loi sur la liberté de la presse. Vous savez, vous l'avez déjà vue écrite sur des murs de bâtiments publics, défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881. En fait, cette loi, c'est la grande loi de la Troisième République qui fixe une bonne fois pour toutes les règles en matière de liberté d'expression. La France insoumise a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi afin d'abroger le délit d'apologie du terrorisme, s'attirant de vives critiques à droite, comme dans le camp présidentiel. Le parti de gauche considère que le délit créé par une loi de 2014 a accentué l'instrumentalisation de la lutte antiterroriste contre la liberté d'expression. On va voir, à mon avis, ça va être expliqué dans l'article, mais c'est aussi un petit peu de l'opportunité de la part de la France insoumise de s'attaquer à cette loi-là, puisque c'est une loi qui a été utilisée contre la France insoumise. Le texte déposé par le député du Nord, l'insoumis Hugo Bernalicis, et ses collègues du groupe LFI veut supprimer ce délit, estimant qu'en la matière suffit la loi du 29 juillet 1881 traitant des faits relevant de délits de crimes de l'apologie relevant de délits d'apologie de crimes de guerre, d'apologie de crimes contre l'humanité. Quelle démocratie peut encore conserver son nom lorsque les méthodes de l'antiterrorisme sont utilisées pour réprimer les militants politiques, des militants associatifs, des journalistes ou encore des syndicalistes, peut-on ainsi lire dans l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est un petit texte qui est ajouté à une proposition de loi ou à un amendement pour le décrire et l'expliquer. On expose les motifs. Voilà pourquoi nous déposons telle proposition de loi. Ils écrivent un petit texte politique de positionnement en disant voilà pourquoi on veut abroger cette loi, etc. C'est ça un exposé des motifs. Les moyens de la lutte antiterroriste en France ont régulièrement été détournés de leur objet par les gouvernements en place pour réprimer la liberté d'expression, est-il ajouté. Monsieur Bernalicis cite le cas de Jean-Paul Delescot, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord, condamné à 1 an de prison avec sursis en première instance, il a interjeté appel, pour apologie du terrorisme à la suite de propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées, depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées, pouvait-on lire dans le tract. Ouais, c'est pas très habile, effectivement. Le député LFI mentionne également sa présidente du groupe Mathilde Panot et l'eurodéputé insoumis Rima Hassan, qui ont été entendus en avril dernier par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Et donc ça aussi, c'est effectivement ce que je vous disais sur le caractère un petit peu d'opportunité de la part de la France insoumise, puisque Mathilde Panot, une présidente de groupe parlementaire d'opposition, a été entendue par la police judiciaire pour des faits suspectés d'apologie du terrorisme. Je ne sais pas où en est cette enquête. Mathilde Panot et Rima Hassan, à ma connaissance, n'ont pas été renvoyés devant un tribunal par les magistrats instructeurs. Donc, ouais. Madame Panot avait été entendue au sujet du communiqué publié par le groupe du 7 octobre 2023, dans lequel l'attaque du Hamas en Israël avait été décrite comme une offensive armée de forces palestiniennes, dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. « C'est difficile de faire plus ignoble », a écrit sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, réagissant à cette proposition. « Une proposition de loi de la honte, une infamie de plus des insoumis », a jugé le président du groupe de l'Union des droites pour la République à l'Assemblée, Éric Ciotti, allié à Marine Le Pen. « On ne s'attendait pas du tout à ce que Bruno Retailleau et Éric Ciotti soutiennent la France insoumise. » Ça, faut pas être surpris. Hein. Là, t'es vraiment... Bon, la France insoumise a énervé la droite. Bon, bah super. D'accord. Ok, what else? Le président du groupe présidentiel Ensemble pour la République, Gabriel Attal, a envoyé une lettre à ses homologues socialistes, écologistes et communistes, leur enjoignant de ne pas soutenir cette initiative. Saurez-vous vous désolidariser clairement de cette proposition de loi et défendre ainsi nos valeurs, celles de la République, questionne-t-il, après avoir fustigé une proposition de loi qui est une insulte et une tâche indélébile sur ceux qui la portent. Une limite fondamentale a été franchie, celle du respect que nous devons à toutes les victimes du terrorisme, a ajouté l'ancien Premier ministre. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a critiqué l'initiative de la France Insoumise dans un message posté sur X samedi soir. En réponse à un message de Jean-Luc Mélenchon, le député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, pourfend cette proposition de loi qui abroge purement et simplement le délit d'apologie du terrorisme, dont la définition demande seulement à être précisée pour en éviter les dérives. Il est impératif de protéger les libertés publiques, mais aussi de protéger les Français du fanatisme et des appels à la violence et à la haine, a-t-il estimé. En réponse aux critiques, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une nouvelle agression contre LFI, décidément c'est une habitude pour Jean-Luc Mélenchon, venue de l'extrême droite et servilement reprise par l'officine médiatico-politique. Plutôt que de se faire des films, lire le texte de la proposition de loi, écrit-il. Donc, ça tense, y compris à gauche, sur cette proposition de loi d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme porté par la France insoumise. Il y a un élément qui n'est pas cité dans cet article, et pourtant, qui est à mon avis important pour comprendre aussi pourquoi ça bloque, c'est que la loi d'apologie du terrorisme, elle a été votée en 2014. C'était qui au pouvoir en 2014? Les socialistes. Donc, Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'en déposant une loi d'abrogation d'une loi socialiste, il va se mettre à dos les socialistes. C'est pas la première fois, et au demeurant, c'est pas le seul, à créer des tensions au sein du NFP en proposant des trucs qui ne peuvent pas être acceptés par tes alliés. Donc ça énerve tout le monde. 2014, c'était sous Hérault. Ouais, 2014, c'était sous Jean-Marc Hérault, c'était avant les attentats terroristes de 2015. Mais les socialistes ont le droit de reconnaître d'avoir fait une connerie. Oui, c'est vrai. Les gens avec qui je suis pas d'accord feraient bien de reconnaître qu'ils ont tort. Mais ils le font pas, ces salauds. Ça m'énerve. Ce qui est intéressant, c'est Marc Trévidic et le changement de pied qu'il a fait sur la loi. Marc Trévidic, l'ancien magistrat antiterroriste. Marc Trévidic est d'accord avec le constat d'abus de cette loi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que... c'est là que tu sens que... Il pourrait y avoir un compromis au NFP. Genre vraiment. Parce que Olivier Faure aussi, il est d'accord. Olivier Faure, il dit que la loi de lutte contre l'apologie du terrorisme doit être précisé pour éviter les abus. Donc, Olivier Faure reconnaît qu'il y a des abus avec cette loi. Bon, bah, c'est un bon début pour discuter. C'est bon, on peut... On peut avancer. Est-ce que c'est vraiment une stratégie positive d'être seul contre tous comme ça chez LFI? Ça paraît tellement contre-intuitif. Ça dépend. Ça dépend des élections. Ça dépend de l'objectif, du but de guerre, comme on dit. La France insoumise, jusqu'à présent, a fait d'assez bons scores, au premier tour de l'élection présidentielle avec cette posture-là, seul contre tous. C'est pour ça que je vous dis toujours que. Enfin, c'est mon analyse, hein, vous n'êtes pas obligé de la partager. Non, la France insoumise n'est pas une secte. Même s'il y a beaucoup de militants qui ont vraiment envie de me convaincre du contraire toute la journée. Non, la France insoumise n'est pas bornée. Ils savent extrêmement bien faire ce qu'ils savent faire de mieux, mener des campagnes. Putain, ta gueule. Merci. En campagne présidentielle, ils font monter la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui fonctionne assez bien dans l'opinion publique. En période de campagne législative, ils font des accords électoraux avec les socialistes. Non pas parce qu'ils les aiment bien, mais parce qu'ils en ont besoin. Donc c'est pas une stratégie jusqu'au boutiste en permanence, ça dépend du moment. Je me souviens même que les insoumis, ils ont fait des compromis avec les macronistes pour permettre de mettre pour permettre de mettre l'IVG, le droit à l'IVG dans la Constitution. Comme quoi, ils savent faire des compromis quand c'est nécessaire, quand l'intérêt supérieur est en jeu. Ça ressemble beaucoup au populisme. Non, 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 non. Le populisme, c'est une stratégie d'opposition du peuple à une élite. Là, en l'occurrence, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'une stratégie de positionnement relatif dans un champ, de rapport de force démocratique. Ils se sont même désistés pour des candidats de droite pour contrer le RN. Oui, voilà, le barrage républicain. Ah putain, arrête de taper, c'est un truc de ouf. On est lundi, il y a eu des travaux samedi, dites-vous, samedi matin. Samedi matin, j'ai été tiré du lit par la perceuse. J'ai pensé à vous. Et tu tapes, tapes, tapes. La personne séquestrée tape sur le tuyau. C'est horrible. L'autre événement de cette niche parlementaire, jeudi prochain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce sera la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites portée par LFI. Alors j'ai un peu échangé par texto avec Hugo Bernalicis, qui est le rapporteur général de cette loi. Il faut que je continue à discuter pour avoir plus d'inside encore. Mais je me demande ce que ça va donner. Est-ce que la proposition de loi LFI d'abrogation de la réforme des retraites va être votée par le Rassemblement national? Parce que je vous rappelle que le mois dernier, quand c'était la niche du RN, le RN a été empêché de défendre sa loi d'abrogation de la réforme des retraites à cause de l'article 40 qui a été utilisé par Yael Braun-Pivet. Il semblerait que la situation ne soit pas la même pour Hugo Bernalicis et la France insoumise. Pour des raisons procédurales, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est possible qu'on se retrouve enfin avec une loi d'abrogation de la réforme des retraites défendue dans l'hémicycle. C'est quoi l'article 40? L'article 40, c'est un article de la Constitution qui interdit la démagogie budgétaire et qui prévient les députés de déposer des amendements et des propositions de loi non financées. Pourquoi il n'y aurait pas article 40? Parce que pour qu'il y ait article 40, il faudrait qu'il y ait des amendements déposés en séance publique de réintégration de la loi parce qu'elle a été modifiée en commission. C'est ce qui s'est passé pour le RN. Et là, semble-t-il, c'est pas ce qui s'est passé pour la France insoumise. Donc la France insoumise n'a pas besoin de déposer d'amendement de rétablissement. Donc faute d'amendement de rétablissement, on ne peut pas utiliser l'article 40 contre la loi des insoumis. Je voulais pas rentrer dans le détail technique, mais on verra ce que ça donne dans l'hémicycle et on verra si un vote intervient. Si un vote intervient, la réforme des retraites ne sera pas abrogée, hein, parce qu'il faut ensuite que la loi soit votée par le Sénat. La question n'est pas là. La question, c'est qui va la voter, cette loi ? Avec l'abrogation, ils ont prévu des recettes supplémentaires. Je ne sais pas sur quoi ils ont gagé les recettes. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. L'Assemblée aura le dernier mot. Ouais, mais pour que l'Assemblée ait le dernier mot, il faut que le texte revienne à l'Assemblée après avoir été examiné par le Sénat. Soit un groupe minoritaire de gauche du Sénat dépose, enfin reprend le texte insoumis et l'inscrit à l'ordre du jour dans sa propre niche. Soit ça prendra 1000 ans, quoi. J'ai l'impression qu'il tape sur des trucs différents à chaque fois. C'est comme s'il avait, mis plein de casseroles différentes, puis il vérifie le bruit. Macron, tu penses qu'il fait quoi après 2027 ? Il reste en politique ? Alors, c'est une bonne question. Que va faire Emmanuel Macron après la politique ? Je vous rappelle toujours un truc qui est extrêmement important à avoir à l'esprit, c'est qu'Emmanuel Macron est un président jeune. C'est pas comme Mitterrand ou Chirac, où on se doutait qu'il n'y avait pas de vie politique pour eux après. Nicolas Sarkozy était un président jeune également. Et bah, morale de l'histoire, Nicolas Sarkozy, je vous rappelle, est revenu en politique avant d'être battu à une primaire. Et c'est là qu'il a annoncé qu'il se retirait définitivement de la politique active. Bon, Nicolas Sarkozy a beau se retirer de la politique active, il continue à échanger avec l'Élysée régulièrement. Il a œuvré dans l'ombre pour une alliance entre LR et les macronistes. Il n'est pas totalement inactif, le bougre. Puis hein, il a aussi une actualité judiciaire, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de son actualité politique. Ensuite, on a François Hollande. François Hollande a quitté le pouvoir en 2017. Il a traversé le désert pendant le premier quinquennat, puis à la faveur d'une dissolution, il s'est présenté à la députation, il a été réélu député, et je le suspecte fortement de vouloir récupérer le Parti Socialiste, qu'il a déjà dirigé pendant des décennies, pour essayer d'avoir un avenir politique. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire après la politique ? Moi, je pense qu'il va écrire des livres. Je pense qu'il va vouloir un avenir européen. Je vous rappelle que le poste de président fixe du Conseil européen a été créé dans le traité de Lisbonne par Nicolas Sarkozy, avec l'arrière-pensée d'en faire son poste à lui après sa vie politique française. Je pense qu'Emmanuel Macron va vouloir devenir président du Conseil. Ouvrir un think tank. C'est possible, François Hollande a créé une fondation, la fondation La France s'engage, qui est plutôt cool d'ailleurs, hein. C'est une fondation qui soutient des projets d'engagement citoyen. Il va créer un podcast, si ça se trouve. On rigole, mais si ça se trouve, Emmanuel Macron, il va créer une chaîne Twitch. Hein. Il va m'appeler pour que je l'aide. Compliqué. Hein. Ça a un pouvoir, ce président européen, ou c'est juste de la représentation ? Ça a un pouvoir d'influence au sein du Conseil. Le Conseil européen, je vous rappelle, c'est le sommet des chefs d'État européens. Hein. C'est quand même pas rien. C'est quand même eux qui fixent le cap, l'ordre du jour, des débats européens. Donc c'est des négociations un peu importantes. Rappelez-vous le Covid. Le Conseil européen a quand même décidé d'un endettement commun des États européens. En 2 semaines, c'était plié. Ça faisait des années, sa mère, que la France essayait d'obtenir de la part d'Angela Merkel un endettement commun, elle a toujours dit nein. Et puis Emmanuel Macron a été élu, le Covid est arrivé, et là Angela Merkel, en 48 heures, elle a accepté. Il y a un documentaire sur ça qui avait été diffusé sur Arte, je crois. Incroyable. Où tu vois la caméra qui filme l'intérieur des négociations avec notamment le président du Conseil. Où tu vois ce moment où en un claquement de doigts, l'Union européenne a fait un bond de géant vers l'intégration. Est-ce que cet endettement commun aurait changé quelque chose pour la Grèce s'il avait existé en 2008? Honnêtement, je pense pas, parce que le problème de la Grèce en 2008, c'était des problèmes structurels, notamment dans le prélèvement de l'impôt. Enfin, il y a un problème de corruption globalisé en Grèce qui datait il y a longtemps. Hein, c'est quand même un pays qui est revenu de la dictature et tout. Je pense que les États européens, ils auraient accepté de faire des prêts à la Grèce, mais ils les auraient conditionnés à des réformes. Comment s'appelle le documentaire? Il s'appelle Sommet dans les coulisses des négociations européennes. J'ai l'impression que c'est ça. C'est une série docu ou c'est un docu unique? Non, non, je crois que c'est ça. Alors, j'ai pas les droits de diffusion, donc je vais pas pouvoir vous le diffuser, mais juste quelques extraits. Charles Michel, le président, du Conseil à l'époque.
Vos plans Marshall, c'est.
Cittadini européen.
Je suis à TEDx.
Puis la crise en spectacle.
Investissement.
27, intérêts divergents.
Charles Michel a prévenu les délégués.
Chancelier autrichien.
Macron.
Emmanuel Macron aurait tapé du poing sur la table et dénoncé la mauvaise volonté des.
Bref, si vous voulez le regarder, regardez-le. C'est un petit bijou de documentaire politique où ils ont quand même réussi à foutre leur caméra à des endroits un peu inaccessibles. Et ouais. Non, c'est vraiment cool comme docu. Puisqu'on était dans les tergiversations du côté de la majorité, il semblerait qu'entre Michel Barnier, Premier ministre, et Gabriel Attal, président du groupe majoritaire et président du parti présidentiel, alors son groupe n'est pas majoritaire, mais il est majoritaire dans la coalition gouvernementale. Hop. Entre Barnier et Attal, des incompréhensions et un délicat pas de deux. Un article du Figaro, une analyse de Tristan Kinomopoil. Décryptage. Le débat sur les allègements de charges des entreprises n'est toujours pas tranché avant une commission mixte paritaire fatidique mercredi. Le moment de vérité approche pour le budget 2025, sans à ce stade que les macronistes ne soient en mesure de revendiquer une inflexion de Michel Barnier. Les discussions sur les allègements de charges des entreprises, totem du camp présidentiel, sont au point mort. Et ce, en amont d'une commission mixte paritaire entre sénateurs et députés, mercredi, pour s'accorder sur le budget. Depuis l'échec d'un déjeuner entre le Premier ministre et son prédécesseur, le 16 novembre, ça n'a pas bougé, constate une source gouvernementale. Le ministre de l'Économie, Antoine Armand, a travaillé ce week-end avec nos députés, indique seulement un cadre du groupe EPR, sans s'appesantir. Les négociations sont tendues. La commission mixte paritaire qui aura lieu mercredi, c'est le moment de négociation entre les députés et les sénateurs pour savoir quelle version du texte sera soumise au vote ou au 49-3 devant les députés. Après avoir imaginé un rabot de 4 milliards d'euros dans l'enveloppe dédiée aux allègements de charges, l'exécutif a proposé de se limiter à 2 milliards. Eux veulent zéro. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Pour qu'un compromis naisse, chacun doit faire un pas vers l'autre, s'impatiente l'entourage de Laurent Saint-Martin, le ministre délégué chargé des comptes publics, pourtant membre du parti présidentiel. Le blocage illustre la méfiance persistante entre Michel Barnier et Gabriel Attal depuis la passation de pouvoir à Matignon. Malgré une désapprobation croissante quant à la politique menée par son gouvernement, le Premier ministre a vu cette semaine sa personnalité être davantage plébiscitée que celle de son prédécesseur dans un baromètre IFOP pour Paris Match. Un croisement des courbes suivi de près par les protagonistes du socle commun qui cherchent toujours à trouver un bon positionnement l'un face à l'autre, près de 3 mois après leur mariage arrangé. Surtout, on ne se tutoie pas, avait commencé par demander Michel Barnier à Gabriel Attal avant de demander la parole dans la cour de Matignon le 5 septembre. Puis de se faire presque humiliant en évoquant publiquement le bureau un peu vide qu'il venait de trouver et de lui faire la leçon dans l'hémicycle quelques jours plus tard sous les rires de la gauche. Putain, ça se passe mal entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Il est obnubilé par la censure du Rassemblement National et le procès en continuité, souffle-t-on dans le sillage de Gabriel Attal, avant d'observer, plus on gueule contre lui, plus ça le serre. Oubliez ce SMS de 2017 de Michel Barnier au jeune député des Hauts-de-Seine, intrigué par ce nouveau venu dans le paysage politique et pressé de le rencontrer. Le rendez-vous se concrétisera l'année suivante et sera suivi par beaucoup d'autres jusqu'au ministre de l'Éducation nationale tout au long de l'ascension publique, de l'ascension politique du macroniste. Ils ont discuté très franchement et librement de quelques incompréhensions. Entre eux, c'est très fluide, juge un conseiller de Gabriel Attal. Surtout, le francilien a compris que l'opinion pouvait se montrer critique envers les voix qui fragilise le nouveau gouvernement. D'où une expression publique plus mesurée qu'à la rentrée. Michel Barnier est évidemment très à l'écoute des attentes de notre groupe, a-t-il redit récemment. Très diplomate, sans rien dire de son étonnement de ne pas le voir intervenir sur la crise agricole ou les piquets de grève ouvriers. Les deux hommes se retrouveront mardi matin, comme toutes les semaines, pour le petit déjeuner du socle commun à Matignon. Suivra cette semaine un débat au sein du groupe EPR sur la position à tenir lors de la CMP. Personne ne veut de la politique de la terre brûlée. L'instabilité serait très lourde, y compris pour le tissu économique que l'on défend, promet un proche de Gabriel Attal, suggérant que le bras de fer avec Michel Barnier a ses limites. J'ai du mal à lire les articles du FIG, pour deux raisons. La couleur du texte est trop claire. Et la police a trop de fioritures. Vraiment, j'ai du mal. Alors, c'est peut-être aussi la fin de journée, je suis fatigué, mais il n'y a pas un add-on qui permet de changer la police ? Je suis sûr qu'il y a un add-on qui permet de changer la police de lecture du Figaro. Mode de lecture, où vous voyez écrit mode de lecture ? En bas ? En haut ? Mode de lecture de Firefox. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. C'est le nom d'un add-on qui s'appelle mode de lecture. Ok. D'accord. Copy-call dans Word. Oh non, ça me fait chier. Tu peux override les prefs contrastes sur Chrome pour pouvoir passer en noir. J'ai divisé mes migraines ophtalmiques par deux. Non, mais oui. C'est pas le problème. C'est pas le fait que ce soit sur fond blanc. C'est vraiment la police d'écriture. Je suis désolé. J'ai plus de mal. Mettez-moi du Cambria comme tout le monde. Merde. Bon bref, du coup on parle de la forme mais pas du tout du fond. Fond de l'article qui dit qu'effectivement il y a des bisbilles entre Gabriel Attal et Michel Barnier, notamment sur fond de lutte pour l'allègement des entreprises. En fait, sur les allègements de charges, moi ce que je trouve impressionnant, c'est à quel point Michel Barnier reste calme avec Gabriel Attal. Bon, évidemment il y est un peu obligé, mais le fait que Gabriel Attal qui était quand même son prédécesseur, lui dise quoi faire, et surtout où trouver de l'argent, c'est vraiment... Enfin, vous vous souvenez tous de cette séquence qu'on a vécue en direct sur ma chaîne pendant les questions au gouvernement, où Michel Barnier dit à Gabriel Attal « Je serai très attentif à vos propositions, notamment d'économie. » Sous-entendu, t'étais au pouvoir il y a 6 mois, mec, donc en fait, tes leçons, pourquoi tu les as pas appliquées à ton époque, en fait ? Un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Oui, il avait même précisé ça. Donc effectivement, le Gabriel Attal qui se mute en champion de la défense des entreprises, je comprends que ça puisse énerver beaucoup Michel Barnier. Je comprends. Non, mais on est vraiment dans l'expectative. Hein. On est vraiment dans l'expectative. Tout va se dérouler dans les 15 jours qui viennent, au début du mois de décembre, sur une hypothétique motion de censure votée contre Michel Barnier et qui ouvrirait effectivement une période d'incertitude politique difficile. Quelle est la date du budget ? Ça va dépendre de la commission mixte paritaire qui a lieu mercredi. Attal n'a pas fait voter le budget, c'était Borne l'année dernière. Oui, attends, ça veut dire qu'il a accepté d'être responsable du budget de Borne. Hein. L'absence de 49.3, ça reste une option possible ? Non. Non, parce que pour qu'il n'y ait pas de motion de censure, enfin, pour qu'il n'y ait pas de 49.3, pardon, il faudrait qu'on soit sûr qu'il y ait 289 députés qui votent la loi. Il y a 0 voix du NFP, 0 voix du Rassemblement National, donc non, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait négocier des abstentions, mais pareil, ils ne s'abstiendront pas. On est sûr de 0 voix du RN ? Ah oui. Ah oui, non. Je vous rappelle que le RN est en train de réfléchir à censurer le gouvernement. Hein. Y a aucun scénario dans lequel ils acceptent de soutenir le budget du gouvernement. Ce serait la première motion de censure en 60 ans. Ce serait la première motion de censure adoptée en 60 ans. Quel impact a l'adoption de cette motion de censure ? Non seulement le budget est rejeté, mais en plus le gouvernement démissionne. Et Emmanuel Macron doit trouver à nouveau un Premier ministre capable de réunir sur lui une majorité. Tu veux dire qu'on va repartir pour des semaines de un tel doit être PM ? Ouais. Ouais. Hein, ça va être funky, hein. Qui connaît Lucie ? Vous savez que Lucie Castet, c'est l'invité de Backseat qui s'est pris le plus gros harcèlement sur les réseaux sociaux. C'était, mais moi, vraiment, j'ai découvert le lore Lucie Castet. Les macronistes et les gens d'extrême droite, quand le nom de Lucie Castet est sorti dans la presse en disant qu'elle est candidate première ministre, machin, a débuté une vague de haine d'une intensité, mais j'ai jamais vu ça. Et je me souviens, elle a fait un tweet avec son compte Twitter pour dire « Je serai invité de l'émission Backseat présentée par Jean Massier ». Donc elle m'a tagué dans son tweet. pendant 5 jours, j'ai reçu des notifs, mais en permanence, de gens qui la harcelaient. Et rien à voir avec Backseat, hein. Absolument rien à voir avec Backseat. Non, c'était juste qu'elle avait tweeté. C'est juste qu'elle avait tweeté. Et du coup, t'as des hordes de gens qui tweetaient tous la même chose. En plus, ils disaient tous « T'es qui ? Vous êtes qui ?» Alors, il y a certains qui la vouvoyaient, certains qui la tutoyaient. « Qui êtes-vous pour parler ?» Un espèce de mépris. C'était 100% des hommes, évidemment. C'est pire que Sandrine Rousseau. C'était pire que Sandrine Rousseau, ouais. Alors, Sandrine Rousseau, ça dépend à quelle époque. Moi, j'ai connu Sandrine Rousseau harcelée sur les barbecues, notamment. Hein. Sur les barbecues, quand Sandrine Rousseau a dit qu'il y avait, je sais plus comment elle a expliqué, mais qu'il y avait une symbolique masculine très forte dans le rapport entre la cuisson de la viande et le patriarcat. Ce qui est quelque chose de factuel, en plus pour le coup, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui sont allés déterrer une interview d'Arnold Schwarzenegger qui dit exactement la même chose. Mais genre exactement la même chose. Schwarzenegger, qui a été gouverneur de la Californie, qui disait « Le barbecue, c'est un truc extrêmement masculin. » Non mais vraiment, genre, c'était il y a des années avant, mais en fait Schwarzenegger dit exactement la même chose que Sandrine Rousseau. Bref, peu importe, Sandrine Rousseau, elle a dit ça. Elle a dit ça. Et elle a commencé à recevoir des photos de barbecue. À chaque fois que les gens faisaient un barbecue, ils prenaient une photo, ils l'envoyaient à Sandrine Rousseau. Et c'est allé très très loin, parce que j'en avais parlé avec Sandrine, et je lui avais dit, mais c'est dingue quand même. Elle m'a dit, oui, c'est extrêmement spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est qu'il y a des gens qui m'envoient par la poste des saucisses grillées, des entrecôtes. Il y a des gens qui m'envoient du courrier. Elle a reçu du courrier écrit à la main par des hommes qui lui disaient à quel point ils avaient été mais profondément choqués par ce qu'elle avait dit, quoi. Et donc elle m'a dit, en fait, c'est... Elle m'a dit, moi j'ai dit un truc féministe que toutes les féministes savent et qui fait même pas débat, enfin, dont on se fout pas mal d'ailleurs au demeurant, c'est pas central dans les causes féministes, cette question-là. J'ai dit une banalité qui a touché un point d'une sensibilité que je ne soupçonnais pas. Je ne m'attendais pas que la fragilité de la masculinité toxique se place dans ces endroits-là très spécifiquement. Et elle m'a dit, non, j'ai soulevé un truc là. Hein. J'ai clairement, pour que des hommes prennent le temps de m'écrire à la main des feuillets et des feuillets et des feuillets pour me dire à quel point ça va pas chez eux depuis que j'ai dit ça, c'est que là, visiblement, il y a un truc. Le barbecue, c'est un truc. C'est bon ? Patouche à mon barbecue. Ouais, patouche à mon barbecue, ouais. La bouffe en France, c'est délicat. Oui, pas plus qu'en Italie, en Espagne, etc. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est pas qu'une question de France, là, visiblement. C'est vraiment une question de masculinité fragile, en fait. Enfin, de masculinité... Oui, c'est ça. D'hommes qui se sentent atteints dans leur chair... par un questionnement sur le caractère genré de la pratique de la cuisson de la viande sur un feu en extérieur. Donc voilà. Dans leur chair à saucisse. C'est quoi le problème de dire que le barbecue c'est masculin? Je comprends pas. Et ben en fait, pour les hommes que ça touche... ça sous-entend que tu souhaiterais que le barbecue soit moins masculin. Donc, ils le prennent pour une attaque contre leur rôle, qui est celui de faire cuire la viande rouge. Et ils le vivent très très mal. Ils vivent beaucoup plus mal cette remise en cause-là que d'autres remises en cause pour lesquelles, pour certains d'entre eux, ils sont même dans l'absolu assez d'accord. Enfin, ça devrait les rendre fiers qu'on les associe à un truc de bonhomme. Ben non, justement. Il est là le problème, c'est qu'il y a une fierté toxique d'une masculinité fragile dans le fait d'être le responsable de la cuisson de la viande rouge. T'as un espèce de, il y a un ethos masculin assez ancré, hein, visiblement. Et que tu pourrais laisser ta femme s'occuper de la cuisson. Mais c'est un truc de ouf parce que moi, en vacances, en famille, on s'est retrouvés, les trois hommes de la famille, autour du barbecue, tu sais, avec la main comme ça. Tu la connais, la main du barbecue, là. Alors, on était les trois comme ça, en claquette, autour du barbecue. Et je me suis dit, mais comment, pourquoi? Et en fait, c'était évident dans la tête de tout le monde que c'était au mec de faire le barbecue. Je crois même que ma mère nous avait dit, bon, les garçons, vous lancez le barbecue dans pas trop longtemps. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était... c'est genré, c'est organisé, c'est conçu, c'est pareil dans la tête de tout le monde, des hommes comme des femmes. Les mecs, vous allez vous occuper du barbecue. C'est vraiment... Personne n'a questionné ça. Et on se dit, d'accord, tiens, c'est marrant. Bon, ok, c'est hyper genré, en fait. C'est vraiment... Alors que sur plein d'autres trucs, on n'est pas du tout dans ma famille. C'est vraiment prendre la bagnole, par exemple, c'est pas particulièrement masculin. Enfin, tu vois, les femmes prennent la bagnole. Vas-y, pour aller chercher quelqu'un à la gare et tout. On se questionne. Enfin, c'est pas du tout pareil, quoi. Mais je crois que d'ailleurs qu'on en avait parlé avec ma maman qui m'avait dit, mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement genré que je n'ai jamais appris à faire de barbecue. Genre, je ne sais pas faire démarrer un feu. Je sais pas faire cuire un barbecue. Je sais pas faire. On m'a jamais appris. T'as toujours été les mecs qui s'en sont occupés. Moi, j'ai toujours fait la salade, comme d'hab. J'ai toujours, voilà, pendant que les mecs faisaient cuire les merguez, quoi. Donc, en fait, tu me demanderais de gérer le barbecue, je saurais pas faire. En fait, je te demanderais de l'aide parce que je sais pas allumer le feu. Feu égale homme. Non, mais c'est ça. C'est ridicule. Homme maîtrise le feu, c'est ça. C'est chelou, en vrai, j'y avais jamais pensé. Mais pense-y la prochaine fois, tu verras. Regardez, c'est assez rigolo, hein, que tu regardes vraiment qui fait le barbecue, qui a la responsabilité, à la charge mentale du barbecue, de son allumage, de son nettoyage, de la maîtrise du feu, etc. C'est toujours les mecs. Et regarde qu'est-ce qui s'occupe de faire la salade, c'est toujours les femmes. C'est vraiment... Donc voilà, c'est marrant. Et la charge mentale du linge. Bah, très bon exemple, la charge mentale du linge, c'est un truc de nana. C'est tellement genré. Faut dégenrer vite. Ah ouais, faut dégenrer vite. Alors déjà, messieurs, apprenez à faire de la salade. Moi, je suis un pro de la vinaigrette. Attention, hein, je suis le meilleur vinaigretteur. Parce que quand j'étais petit, j'étais tellement nul en cuisine, c'était le seul truc qu'on me laissait faire. Du coup, j'ai masterisé un peu le truc. Donc, je sais faire une dizaine de vinaigrettes différentes. T'inquiète, je suis le meilleur. Donc, apprenez à faire de la vinaigrette et faire de la salade. Mesdames, apprenez à faire un barbecue. Hein. J'aime bien le barbecue, moi, en plus. C'est bon. D'ailleurs, quand on était en vacances avec Usul, et il n'y avait pas qu'Usul, on était avec une bande de potes, c'était moi le responsable barbecue. Officiellement. Hein. C'était géré, c'était organisé. Usul qui venait m'apporter des bières pour me refuel pendant que je gérais le barbecue. Mais c'était moi qui faisais la cuisson des chipots. Pourquoi dégenrer? Pourquoi absolument dégenrer? Oh, oula, non, surtout pas. Non, je voulais pas te braquer. Il faut pas dégenrer. Ne touche pas à la vinaigrette. Tu vas t'efféminer, c'est une très mauvaise idée. Oula, merde, j'en ai trigger 1. J'ai dû m'occuper des chipots au mariage de mon frère. Il y avait des chipots au mariage? Et moi, je ferais ça? Je ferais un barbecue? Non, en même temps, non. La barbac, tout ça, non, je suis pas sûr. Mon mariage, non. Par contre, c'est moi qui ferais la vinaigrette. Et faire la maillot, c'est qui? C'est ma grand-mère, la maillot. Meilleur maillot de l'histoire. Trop, trop bon. Attention, tu vas recevoir des entrecôtes. Des entrecôtes. Non, non, mais bref, mesdames, faites des barbecues. Messieurs, faites des vinaigrettes. Il va rien vous arriver de mal. Ça va bien se passer. La maillot maison, quel plaisir. Attends, c'est extraordinaire, la maillot maison. Tiens, il y a un autre truc qui est hyper genré dans ma famille, c'est l'ouverture des huîtres. Je suis en train d'y penser, je suis en train de réfléchir un peu au cliché débile dans ma famille. On vient de Bretagne, donc les fruits de mer, c'est un peu le délire de la maison, depuis toujours. Et c'est vrai que ça a toujours été moi et mon père et mes oncles. Ouverture d'huîtres. Les huîtres, c'est les mecs. T'as vu, c'est marrant, hein. C'est genré, ça aussi. L'ouverture des huîtres, c'est les mecs. Bizarre. La déchetterie et le gazon, c'est les mecs aussi. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est moi qui ai tapé des allers-retours à la déchetterie avec ma Fiat Cinquecento pour virer les déchets verts. Découper le gigot en tranches. Oh, j'ai que des souvenirs de ma grand-mère et de ma maman. En train de découper le gigot. Pour moi, c'est super identifié femme, le gigot. Tu te souviens, ma grand-mère, elle avait un découpeur électrique. Un vieux truc Moulinex, là. Brrr, ça m'impressionnait vachement. Couteau électrique, là. C'était trop bien. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Qui est-ce qui s'occupe de faire le café? Hello, prof de philo en lycée ici. D'un côté, c'est hyper important pour moi de déconstruire certains rôles genrés pour que les filles soient plus ambitieuses, par exemple. Mais d'un autre côté, une société sans culture et donc sans rôle préconçu et arbitraire, eh ben, ça n'existe pas. Déconstruire ne peut pas mener jusqu'à construire de nouvelles catégories elles-mêmes discutables. Ah oui, je suis d'accord. Non, non, mais je suis pas. Enfin, de toute façon, j'ai pas trop de discours prescriptifs. Je dis pas qu'il faut déconstruire l'intégralité de la société du début à la fin, etc. Il y a juste des trucs qu'on peut corriger, que ça fera de mal à personne et qu'on regrettera pas. Tu sais, c'est toujours un peu pareil, hein. C'est qu'une fois que la société a progressé, on regarde dans le rétro et on se demande si on regrette l'époque où. Bon, bah, il y a des trucs qu'on regrette pas, voilà. C'est mieux aujourd'hui. C'était mieux avant, ouais, enfin voilà, il y a aussi des gens qui fantasment un peu un passé imaginaire en se disant que c'était... C'est beaucoup Éric Zemmour qui fait ça d'ailleurs. Éric Zemmour qui vend vraiment un retour aux années 50-60. C'est ce que j'appelle les années Belmondo-Brigitte Bardot. Tu sais, cette espèce de France fantasmée c'était mieux à l'époque... Aujourd'hui, alors c'est évidemment c'est un leader d'extrême droite. Donc comme c'est un leader d'extrême droite, il a un ethos pessimiste, bien entendu, mais il a aussi un rapport à l'idée de décadence. Voilà, cette idée que tout n'est que décrépitude, décadence, réduction, et que la grandeur appartient au passé et ne peut pas appartenir à autre chose qu'au passé. Et on va toujours de mal en pis. Le choix du pinard, c'est sérieux, donc c'est monsieur. Putain, c'est pareil, le choix du pinard. C'est tellement genré. C'est tellement genré, le choix du pif. Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on boit un petit brouillis? Les hommes à la guerre, ouais. Moi, c'est un truc qui me fait marrer quand je vais boire un... Quand je vais boire un verre avec une copine et que elle commande une pinte de bière et moi je commande un cocktail. Et quand c'est ça, j'essaye de prendre le cocktail le plus girly. Et j'adore le serveur qui se plante à chaque fois. Le cocktail pour madame, la pinte pour monsieur. Ah non, c'est l'inverse. Je tiens à mon Sex on the Beach. Ou mon spritz. Ouais, voilà, je vais prendre un spritz, s'il vous plaît. Un Cosmo. Voilà, c'est ça. Un Cosmo, s'il vous plaît. Et pour madame, ce sera une pinte d'IPA. Non, t'as raison, le choix du pinard. Hein, le choix du pinard, ça aussi, c'est genré. Hein. Marrant. Ah, j'adore parce qu'il y a deux messages qui se suivent dans le chat. Il y en a un qui dit c'est trop bon l'IPA et le suivant qui dit l'IPA c'est surcoté de ouf. Alors c'est reparti pour un débat à la con. Qu'est-ce qu'on pense de l'IPA? Est-ce qu'on cancel l'IPA ou pas? Est-ce que les gens qui sortent au Berghain ne boivent que de la Berliner? Est-ce que l'IPA est devenu trop mainstream? Alors on va faire un sondage. Hein. On va faire un sondage. Hein. Hop, IPA. Cancel ou banger. Voilà. Vous avez... Allez, je vous mets une minute pour voter. Hein. Franchement, je suis sympa. Allez, hop, vous votez. Vous avez qu'une minute pour voter. Ou je sais pas ce que c'est. Oh non, vous pouvez pas ne pas savoir ce que c'est. Tout le monde en vend maintenant, tout le monde en sert. Il y a une époque, ça se trouvait que dans le 11e arrondissement de Paris. Maintenant, c'est partout à la surface de la planète, on vend de l'IPA. Regarde-moi ce 50-50. Vous êtes insupportable. La France irréconciliable. Ah non, ça, les vraies fractures, elles sont là. Hein. Les vraies fractures, elles sont là. Ah, et c'est le banger qui gagne le vote à 51%. Félicitations. Le banger. Voilà, c'est officiel. C'est dans la Constitution. Hop. L'article sur les langues régionales et l'article 75.2. La IPA, c'est banger. Voilà, c'est écrit dans la Constitution. C'est des gens qui ont des palais de Doberman. Vous êtes trop cons. Vous êtes trop trop cons. Hop, hop. Tchoum, tchoum, tchoum. Demain, on suit ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement. Attendez, je vérifie quand même dans mon agenda. Demain, QAG. Mercredi, QAG. Mercredi soir, je suis dans Zoom Zoom Zen sur France Inter pour parler de la démocratie. Jeudi, Backseat. Et voilà. C'est le programme de stream de cette semaine. Je regarde si on fait un raid. Non, on va pas faire de raid. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'est quand ça, France Inter? C'est mercredi à 17h, je crois, dans Zoom Zoom Zen. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour la séance des QAG. Le stream commencera à 14h. À tout bientôt. Je viens d'arriver. Ah, bah tu peux t'abonner. Comme ça, tu seras là demain à la bonne heure. Y a pas de souci. Des bisous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.